Sont-ils des geeks?
Sont-ils fanboys?
Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés.
Animé par Teddy et Fabien.
Alors voici une édition spéciale justement des Potes Calés. Aujourd'hui, on va tâcher d'être plus sérieux que d'habitude. Et on va parler des extraterrestres amicaux ou bienveillants, selon le terme. Pour illustrer notre thème, on va commencer par un premier film central. C'est Rencontre du Troisième Type. Donc, Rencontre du Troisième Type, réalisé en 1977. Tiens, c'est une année qui me dit quelque chose, 77. C'est l'année de Star Wars, justement.
Star Wars, je connais pas. Tiens, les films indépendants, je connais pas.
C'est un petit peu obscur, qu'on va dire.
Obscur, Star Wars, bien joué.
Eh ouais, on reste dans le thème, hein. C'est ça le professionnalisme. Hein. Donc, 1977, réalisé par le grand Steven Spielberg. Alors, est-ce qu'il est besoin de présenter Steven Spielberg? Moi, j'ai des films favoris, mais toi, est-ce que t'as des favoris parmi les films de Steven Spielberg, hein, par exemple?
Ah ouais, Ready Player One.
Quelle horreur!
Non, bah, Les Dents de la Mer. Duel,
ouais, bien
même,
sûr.
Même ne serait-ce que Duel, où là, où il a pris à filmer sans avoir de moyens.
Trilogie Indiana Jones.
Ah ouais, les trois films Indiana Jones, parce qu'il n'y en a eu que trois. Donc...
Dans notre réalité à nous, il n'y en a que trois. Hein. C'est sûr.
Dans les Potes Calés Cinematic Universe, il n'y en a que trois.
Il y a aussi des grands films comme La Liste de Schindler, par exemple.
Ouais, tu vois, comme quoi, pas que le Fantastique où il a réussi des bons
films.
Non,
c'est un grand réalisateur. Il est entre. Il est un petit peu l'initiateur du blockbuster, quelque part, avec les temps de la. Avec Lucas. C'est lui qui, grâce à sa société Amblin, a lancé un petit peu tous ses films, on va dire, des années 80, style, tu sais, Retour vers le futur, Gremlins.
Ouais, puis même Spielberg a aussi pas mal marqué. Bah, tu prends, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, Jurassic Park, hein,
aussi,
comme
ouais.
Ça.
Gros blockbuster. Ouais.
Gros blockbuster. Mmh. C'est lui qui a, en façon genre, ça fait un peu film de monstre, un peu remis au goût du jour. Quoi.
Ouais, et puis bon, lui, c'est bien parce qu'il alterne entre blockbuster, entre divertissement et des films plus intimistes, comme on a pu le voir. On a un peu les deux dans Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple, un grand film de guerre aussi. Je pense aussi à des films comme L'Empire du Soleil ou bien La Couleur Propre aussi, qui sont de très grands films. Mais Spielberg, c'est vrai que sa filmographie parle pour lui. Quoi. C'est vrai que moi, le problème, c'est que Ready Player One, nous, on a détesté.
Ouais, on dirait que c'était un film fait pour être bankable, en fait.
Oui, c'est carrément le fanboy, rassembler le fanboy, quoi. Mais à côté de ça, moi, j'ai pu voir récemment Pentagon Papers ou Le Pont des Espions avec Tom Hanks, et on voit encore qu'il a quand même la patte des grands cinéastes, quoi. Que on va pas s'étaler sur Steven Spielberg, mais de toute façon, je pense que vous serez d'accord comme nous pour dire que c'est l'un des plus grands cinéastes de ce siècle, quoi. Ça, c'est clair.
Tout le monde connaît Spielberg.
Ouais, ouais.
Zemeckis, c'est encore un peu plus confidentiel, mais tout le monde le connaît par rapport.
Retour vers le futur, quand même.
Voilà, juste à cette saga-là. Ouais. Mais quand tu parles Spielberg, t'arrives plutôt à dire plus de films qu'un Zemeckis.
C'est ça. Il y a tellement de mythes qui ont été construits par Spielberg. Que, je veux dire, c'est vraiment une mythologie à lui-même, quoi, le mec.
Ouais. Ouais. Et puis il touche à tout. Hein.
Ouais, ouais, à tout. Et puis, on va citer deux trois noms là au générique. Il y a par exemple Richard Dreyfuss. Alors Richard Dreyfuss, si tu te souviens bien, c'était lui l'océanologue dans Les Dents de la Mer, par exemple. Richard Dreyfuss, il a fait beaucoup de polars. Il a fait quelques films dramatiques, mais c'est un acteur que on a malheureusement pas beaucoup vu, à part dans quelques films des années 80. Et après, il a une carrière qui a été plutôt descendante, quoi. C'est un peu triste pour lui. Mais voilà, quoi. Mais il y a aussi Melinda Dillon qui joue justement la mère qui a perdu son enfant dans le film.
La mère du Cho.
Oui. Et aussi, dans un petit rôle, un plus petit rôle, un petit peu plus, on va dire, un peu moins, c'est le réalisateur François Truffaut,
moi,
français.
Je trouve justement qu'il a un bon rôle dedans parce que il fait vraiment la part des choses entre. Il sert de pont entre, on va dire, l'humain et le militaire, tu vois. Parce qu'il est à la fois, il couvre un secteur militaire, c'est-à-dire que il faut rencontrer les extraterrestres, machin. Et c'est aussi lui qui amène tous les aspects humains, c'est-à-dire faut tenir aussi compte des témoignages.
Ouais, c'est ça en fait. Truffaut, le problème, c'est que moi, j'ai pas trouvé qu'il jouait super bien dans ce film. Je trouvais qu'il était un petit peu minimal dans ce rôle, limite inexpressif.
Ah en fait, soit tu l'as vu en VO, soit tu l'as vu en VF.
Ouais.
En VF, ça donne tout à fait l'impression que. Qui sait pas trop ce qu'il fait. Par contre, quand tu regardes en VO, en fait, t'as Truffaut qui parle et t'as le traducteur qui parle en anglais derrière. D'accord. Et donc, ça fait vraiment. T'es plus immersif, en fait.
Okay.
Et là, tu vois que Truffaut, il parle vraiment français dans le film américain et que l'autre, il fait la traduction derrière. Et du coup, tu arrives à te rendre compte de plus de choses, en fait.
Ok. Tu vois, c'est tout. C'est des fois ce fossé qu'il peut y avoir entre la version originale et la version française. La version originale peut avoir plus d'impact. Que justement la VF, quoi.
Justement, quand t'es dans la VF, tu te dis, il défend son point de vue, tu sais pas pourquoi l'autre il répète tout ce qu'il dit. Puis quand tu regardes en VO, tu te dis, ah ouais, d'accord, il est impliqué en fait. Tu te dis, il parle français, il est passionné. Enfin, en même temps, Truffaut, c'est un peu un fan d'ufologie, je pense. Donc, du coup, il est plus impliqué dans ce qu'il dit. Et surtout, dans l'aspect... quand tu l'écoutes en VO, t'as plus l'aspect... Enfin, c'est pas on fait attention aux humains, parce que ça reste quand même les humains des sujets de... ça intéresse pas trop l'armée, qu'il y a des civils dans l'affaire.
Ouais, c'est sûr.
Et Truffaut, il essaye de mettre un truc pour dire, ouais, mais si les extraterrestres, ils veulent des civils, faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi.
Bah, justement, vu qu'on est un petit peu parti dans l'intrigue, est-ce que tu veux pas essayer un petit peu de résumer l'histoire du film, quoi, nous poser un petit peu les bases
Les bases de ce film sont assez compliquées à poser, parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. T'as l'histoire du camionneur qui se fait surprendre par un vaisseau spatial et qui se fait brûler la moitié de la tête. Là,
il n'est pas camionneur, en fait, il est technicien de maintenance en électricité, je crois.
Ouais, voilà.
Oui.
Enfin, donc t'as lui, et puis après t'as la femme qui se fait enlever son fils. Mmh. T'as du mal à comprendre le rapport entre ces deux personnes.
C'est ça.
Et après t'as les mecs de l'armée qui retrouvent des avions militaires perdus en plein désert, qui savent pas ce qu'ils foutent là, des bateaux perdus qui reviennent, des machineries qui ont été disparues pendant la guerre qui reviennent, et tu sais pas trop où le film veut t'amener en fait. Et tu le sais qu'à la fin où le film veut t'amener en fait.
D'ailleurs cette scène où t'as le bateau en plein désert, elle est impressionnante. Hein.
Ah, la scène du bateau, ouais, tu te demandes ce qu'il fout là ce bateau.
Ouais.
Donc du coup t'es intrigué, puis tu vois les avions, puis ils démarrent les avions, ça fait 50 ans, je dis une connerie, hein, fait plus de 20 ans, 30 ans qu'ils ont disparu, puis ils redémarrent les avions comme ça, puis tu te dis, il veut venir où le film ? Puis
oui.
Après t'as les trucs un peu, il y a des rencontres du premier type, c'est-à-dire des apparitions d'ovnis dans le ciel, tout le monde les regarde, et là tu comprends que le film il va t'emmener vers une piste plus ovni, mais tu sais pas encore si c'est belliqueux, normal, juste un contact, tu sais pas où t'emmène le film. Parce que même quand le petit se fait enlever, tu te dis, ah, ça y est, ils sont belliqueux.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est une scène assez forte, j'ai trouvé. Justement, si tu te souviens de cette scène, qui est quand même assez horrifique dans sa façon de voir, c'est que t'as tout plein de lumières qui sont autour de sa maison, et puis à un moment, t'as une espèce de petite sortie, là, tu sais, pour les
petits soupirails.
Ouais, ouais. Et puis t'as cette lumière qui rentre par là, c'est quasiment comme si que l'extraterrestre aspirait l'enfant, quoi.
Même
tu
le
vois.
Soupirail, où ça dévisse le soupirail, quoi. Ouais. Tu te dis, quoi qu'elle va faire, ça fait film d'horreur, là.
Ouais, ça fait quand même.
Tu te dis qu'elle peut rien faire. Elle est désemparée, elle peut rien faire.
D'accord, ce côté,
et pour finir, c'est le petit qui se barre lui-même, quoi.
Oui, il est complètement hypnotisé, quoi.
Hypnotisé
quasiment.
Par la lumière.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, quoi. Une scène qui fait un petit peu, qui est un petit peu horrifique au milieu d'un film qui entretient le mystère pendant près de plus de 2 heures, quoi.
Ouais, puis à un moment, tu te dis pas, tu te dis, enfin, moi je dis toujours le camionneur, le dépanneur électrique.
Ouais.
Tu te dis, il est fou, il est pas fou, parce que tu vois, il commence à faire des trucs dans son salon, à tout péter son salon pour reconstruire cette fameuse montagne.
Ouais.
On t'en reparlera un peu plus tard.
Ouais.
Et à un moment, tu te dis, tu navigues entre le mystère, la folie, l'horrifique. Et c'est bien de mélanger un peu tous les styles comme ça.
Ouais.
Surtout avec un super résultat final, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais, comme tu disais, il y a cette histoire de montagne, là, et puis ça fait que sa folie, elle l'entraîne un petit peu vers une espèce de, je dirais, d'emprise mystique quelque part.
Bah, carrément, il est pris par sa névrose, il va jusqu'au bout de sa névrose, quoi.
Et ça lui cause beaucoup de problèmes, vu que sa famille le croit totalement dingue, quoi.
Ouais, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que le phénomène est mondial, parce que la musique qui apparaît dans le film...
C'est ça.
Tu vois, en Inde,
ils
arrivent en Inde, et puis t'as le truc, et... Ouais, à un moment, tu dis vraiment, le phénomène est mondial.
C'est ça, c'est pas Independence Day où il y a que... Ça se passe qu'aux États-Unis, quoi,
tu vois. Voilà, c'est... Enfin, ça se passe surtout aux États-Unis.
C'est
on reconnaît que c'est un blockbuster américain.
Ouais.
Mais ils arrivent à... Voilà, le désert de... Je sais pas si c'est le désert de Gobi ou le désert de Maroc.
Le désert de Gobi, tout à fait, ouais.
Après, ils vont en Inde, et puis t'es emmené comme ça, tu sais pas... C'est pas comme dans les films maintenant, il s'est passé quelque chose en Inde, on va aller en Inde. Tu reçois que des morceaux d'informations... qui te disent, il y a un truc qui se passe, mais tu sais pas quoi.
Ouais, c'est très fort, hein, de la part de Spielberg, d'avoir comme ça étalé, je dirais, l'espèce de d'atmosphère étrange.
Ouais, puis tu te sens dépassé quand tu regardes ce film, c'est ça qui est bien. C'est que y a qu'à la fin où tu te sens moins dépassé. Et tu te sens dépassé par ce qui arrive, tu te sens dépassé par le style, tu te sens dépassé par toutes les histoires. Et en fait, c'est bien parce que en fait, l'humanité est dépassée par ce qui est en train d'arriver. Et il arrive bien à te le faire retranscrire.
Et est-ce qu'on peut peut-être passer à la deuxième partie du film, parce que c'est là qu'en fait tous les chemins se croisent. Donc celui de Richard Dreyfuss, je vais te citer les acteurs comme ça ira plus vite, et de Melinda Dillon justement, qui se croisent parce qu'ils ont justement cette vision en commun de cette montagne. D'ailleurs pour l'anecdote, cette montagne existe vraiment. Hein. Moi j'ai toujours cru que c'était un décor, mais elle se situe dans le Wyoming et elle s'appelle déjà justement, elle porte bien son nom. Hein. C'est la Devil's Tower, donc la tour du diable.
La tour du diable.
Ouais, exactement. Donc va spoiler, mais bon, c'est un film quand même qui a une trentaine.
77, ouais. C'est quand
je
même.
Je pense que tout le monde l'a vu de toute façon.
C'est quand même un petit film Star Wars, hein, je suppose que vous l'avez tout vu.
Par contre, sur un film, c'est quand même culte, hein, à un niveau stratosphérique, quoi.
Bon, après, tu vois, là, j'ai fait une petite analogie Star Wars. On va vite couper. Hein. Si on n'a pas une à chaque podcast, c'est nul. Ah, tu vois, Star Wars, c'est les nouvelles générations connaissent. Tu prends un Dark Vador ou un Obi-Wan Kenobi ou un truc comme ça. Les un peu plus jeunes connaissent grâce à Clone Wars et tout. Mmh. Ce film-là, il est plus confidentiel dans la nouvelle génération.
Ouais, tu penses que ça s'adresse purement aux films de aux fans de films de science-fiction?
Non, je dis que la génération de maintenant, Rencontre du Troisième Type, ils auront peut-être plus vu un E.T. qu'un Rencontre du Troisième Type.
C'est ça. E.T. qui a plus de notoriété, on va dire.
Ouais, puis E.T. qui est plus, j'ai du mal à dire film familial, mais tu peux plus t'identifier.
Divertissement familial, hein, ouais, c'est un divertissement. C'est le terme, quoi, ouais.
Tandis que Rencontre du Troisième Type, ça te pose vraiment des questions, quoi.
C'est ça. Il y a un côté philosophique, c'est ça que tu voulais dire, je crois.
Ouais, voilà. Ah, ouais. C'est un film plus cérébral que E.T., qui est déjà pas mal, hein.
C'est pas le film qui est basé sur l'action.
Ouais. Puis, il faut dire, c'est pas un film qui est fait pour te vendre des poupées ou des jeux vidéo, non?
Non, surtout. Non, c'est clair que, ils vont pas te vendre par exemple, ces extraterrestres qu'on voit à la fin, quoi, tu vois. Il y a aucune figurine qui est sortie de là, quoi.
Non.
Mais voilà, quoi, on va lentement dériver sur cette partie finale qui est quand même assez impressionnante, hein, on va dire, niveau visuel. C'est qu'ils arrivent quand même à rentrer dans la zone qui est interdite aux civils. Je sais plus, je crois que c'était parce qu'il y avait une menace de contamination, si je me souviens bien.
Bon, en fait, les militaires gazaient tout le monde, hein, tout simplement. Mmh. Hein. Ils avaient fait croire qu'il y avait une fuite de produits toxiques, mmh, quelque part. Puis comme ça, ils ont pu
canaliser
la région pour faire une rencontre un peu plus privée, on va dire. Ouais. Puis après, ils gazent tout le monde, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sait pas s'ils gazent pour tuer ou s'ils gazent pour anesthésier. Donc ça va.
Ouais.
Mais voilà, ils arrivent quand même à aller jusqu'au bord du cratère. Puis c'est bien parce que quand les extraterrestres, ils arrivent à la fin, il n'y a plus de distinguo entre les militaires, les scientifiques et les civils. Mmh. Tout le monde regarde en même temps et plus personne ne s'intéresse de savoir c'est qui que j'ai à côté de moi, quel est le grade, etc.
Ouais, t'as vu il y a cette différence de... Il y a cette notion d'égalité, c'est ça que tu voulais dire.
On devient humain d'un côté et extraterrestre de l'autre.
C'est la race humaine et l'extraterrestre en face, quoi. Voilà. Il n'y a plus de distension, quoi. La scène la plus impressionnante du film, c'est quand même l'arrivée du vaisseau, quoi.
Les arrivées multiples de vaisseaux sont impressionnantes.
Ah, c'est déjà, il y a ces premiers trucs, ouais.
Puis la communication aussi. Ouais. La communication non verbale, c'est-à-dire sonore, quoi, avec de la musique. C'est quand même un sacré challenge de faire une musique entière avec 5 notes.
Hein. C'est sûr. Voilà, donc il y a tout cette espèce de ballet de lumière, qui est féerique, hein, on peut le dire. Hein,
Ouais, après la communication qui se fait avec un vaisseau beaucoup plus grand.
Ouais.
Moi, je me suis dit, ça y est, c'est ça le vaisseau. Puis après, le vaisseau, il se barre. Moi, j'étais comme eux, hein. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Et non. Après, t'as le gros machin qui arrive.
Après, t'as le gros vaisseau mère qui arrive.
Le gros vaisseau mère qui arrive, puis.
Et puis là, c'est le débarquement, là.
Ah ouais, puis là, ils détruisent la Maison Blanche. Non, merde, je vais prendre le film.
Ils détruisent le.
L'Empire State Building,
ils détruisent. On voit la Statue de la Liberté qui a de moitié dans l'eau. C'est terrible, la fin.
Ouais, puis l'Étoile de la Mort qui détruit le. Oh merde!
Non, ils arrivent vraiment de manière pacifique, mais c'est vrai que ça fait peur quand même, parce que vu la taille du vaisseau, parce que déjà la Devil's Tower, elle est quand même massive, mais là tu vois le vaisseau qui fait deux fois la taille quand même.
Ouais, puis le son.
Oui.
Le son quand c'était les petites nefs, c'était un son assez léger. Mmh. Et là quand t'entends le vaisseau arriver, c'est le bruit sourd, c'est.
Ah, c'est bruissant, quoi.
Tu sens le truc qui va en imposer, quoi.
Ouais, c'est sûr. Donc lui, il arrive, il se pose, ça s'ouvre, et puis je sais plus si c'est maintenant, je crois qu'il libère les pilotes.
Ouais, et pendant ce temps-là, ils alpaguent l'électricien pour lui dire. C'est Truffaut qui dit encore vos vaccins sont à jour. Parce que il lui pose des questions et là tu te dis lui il va partir, quoi. Et à la fin justement tu te dis ils choisissent lui, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en contact avec lui du deuxième type. Parce qu'ils l'ont choisi, c'est-à-dire que ceux qui rentrent, c'est parce qu'ils veulent pas rester, et lui, il veut bien partir, donc voilà, ils ont un cobaye. Bon, après, dans la saison 2, ils vont peut-être le découper en morceaux. Mais pour l'instant, ils ont un cobaye, quoi.
Alors, pour l'instant, c'est amical. Quoique, moi, quand j'ai vu ce film, il y a un extraterrestre qui m'a fait peur, c'est l'espèce d'extraterrestre filiforme. J'ai trouvé qu'il fait un petit peu, un peu spectre de film d'horreur.
Il fait très filiforme, très arachnéen, mais qu'à quatre pattes.
Ouais.
On dirait une sœur Olsen tellement qu'il est maigre, ouais, c'est quand même assez spécial.
Mais c'est. Il fait peur, quoi, par rapport aux petits gris qui sortent de l'eau.
Bon, les petits gris font rigoler, parce que tu vois que c'est des gosses qui sont dedans.
Ouais, c'est des gamines, quoi, qui ont mis un costume, mais il y a ce côté, je vois pas pourquoi ils ont inséré ce personnage qui est quand même assez inquiétant, quoi.
Bah, en fait, c'est encore une fois pour mélanger les styles. Je te dis, t'as du fantastique, t'as de l'horrifique, t'as du psychologique, t'as vraiment de tout dans ce film. Et je pense qu'ils ont voulu pousser le vice jusqu'au bout et faire un mini horrifique, tu vois.
En plus, Spielberg, il filme ça, mais il y a beaucoup de lumière en arrière-plan, tu vois.
Ouais.
Pour donner un petit peu cet aspect un peu divin, quoi.
Aussi, ouais.
Ouais, ouais. Il y a cette lumière et cette réverbération dans le vaisseau. Bon, il y a, je vais en parler tout à l'heure de l'édition spéciale, mais il y a une scène supplémentaire, justement, avec le vaisseau. Dans la vieille version, t'as l'impression que, il y a une espèce de métaphore sur, je vais au paradis, quoi, quelque part.
Moi, j'ai plus, ouais, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai vu ça comme on commence à toucher le divin.
C'est ça. Il y a les espèces de dieux qui sont quand même, ils ont une technologie supérieure, qui viennent sur Terre.
Une technologie pour écrasante.
Établir le contact.
Quand il arrive, je te dis qu'il peut écraser la Devil Tower s'il veut, là tu te dis, bon ben, voilà, on est dépendant de leur bon vouloir, entre guillemets.
C'est sûr que s'ils voulaient nous mettre à genoux, ben, ils n'auraient aucun problème, quoi.
Alors, et après, on discutait aussi pourquoi rencontre du troisième type.
Ouais, vas-y.
La rencontre du premier type, c'est quand vous voyez quelque chose d'inexpliqué dans le ciel. C'est une rencontre du premier type. Mmh. Je vais pas pouvoir aller jusque tous les types parce que je connais que les trois premiers. La rencontre du deuxième type, c'est quand vous voyez un vaisseau de près. C'est une rencontre du deuxième type. Et une rencontre du troisième type, c'est quand vous avez un contact rapproché avec un organisme inconnu.
Bah, écoute, bon, je vais pas déformer tout ce que t'as dit. T'as en partie vrai, mais t'as fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que, au départ, il y a Joseph, un astronome du nom de Joseph Allen, Hynek, qui a en fait classifié les différents types de rencontres dans son ouvrage, et donc ça date de 72 cette histoire, donc c'est assez récent hein, quand même. Et lui, il a classifié ça en 10 rencontres en fait. C'est-à-dire que t'as ce qu'on appelle les rencontres rapprochées, il y en a 7. Donc la rencontre du troisième type, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'était la rencontre directe avec un extraterrestre. Il y a 3 autres types de rencontres qui sont pas appelées rencontres rapprochées, mais plutôt qui sont plutôt des observations dans le ciel. Et t'as la rencontre numéro 7, là c'est carrément la relation sexuelle avec l'extraterrestre, quoi. Ce qui pose aussi ce qui est un peu bizarre, quoi, mais bon, mais
Je veux pas le voir ce film là.
Ça existe un peu, vu qu'on en parlera d'ailleurs tout à l'heure d'ailleurs.
Ouais, les abductions, les trucs comme
ouais.
ça.
Ouais, mais même avec Starman par exemple.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. Mais voilà quoi, il y en a 10 qui sont classifiés, donc vous pouvez faire des recherches sur ce que vous avez la classification de Hynek.
Oh bah sur donc, Wikipédia, vous serez plus au courant que ça.
Oui, Hynek, ça s'écrit Hynek. Voilà quoi, c'est vrai que t'as bien fait de l'insérer entre deux. Moi j'ai pas mal d'anecdotes, mais peut-être qu'on peut encore parler du final quoi. Bon, il s'en va dans ce vaisseau, est-ce qu'il est volontaire apparemment, mais il abandonne sa famille quand même derrière
Oh ben, Siddhartha Bouddha, il a abandonné sa famille pour l'illumination, donc là, c'est très religieux comme truc.
D'accord.
C'est à partir du moment où ta cause, entre guillemets, est plus grande que l'humanité, ben, il faut saisir ta cause.
Ah, c'est ça.
Enfin, j'ai trouvé l'analogie comme ça, après vous faites votre analogie comme vous voulez.
Oh non, mais de toute façon, je pense que c'est un peu comme certains films comme 2001, chacun a son interprétation de la fin. Quoi,
ou Interstellar aussi.
Ouais, Interstellar aussi, ouais, par exemple. Mais j'ai péri 2001 parce que bon ouais, quoi. C'était un exemple comme un autre. Mais il y a beaucoup de films qui ont des fins ouvertes, on va dire. Aussi.
Ah bah comme Inception, hein, même sans partir. Enfin, j'allais dire sans le fantastique, mais c'est fantastique aussi Inception.
Est-ce que toi, bon là, on est plus dans la vision personnelle. Est-ce que toi, si on te proposait par exemple d'intégrer un vaisseau spatial, est-ce que toi, tu serais prêt à abandonner ta famille pour explorer l'inconnu, quoi ?
Ah bah clairement, oui. Après, c'est pas le meilleur choix. Hein. Je suis à moitié flingué, j'ai des maladies génétiques, mais bah ouais, carrément. Ta vie, elle servirait enfin à quelque chose.
Ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, tu dis enfin, je pourrais voir autre chose que la Terre, quoi. C'est ça le.
Ouais, la rigueur, mais même sans ça, même tu, enfin voilà, je servirais enfin à quelque chose.
À ouais, d'accord.
À part faire des podcasts.
Non, c'est vrai que bon, t'as été comme Richard Dreyfuss là-dedans dans le film, c'est l'élu quoi, quelque part, c'est lui qui a été choisi. Il y a aucun militaire qui monte avec lui. Je me souviens plus de la fin.
Il y en a quand même une paire qui sont préparés, mais comme moi je me suis arrêté un petit peu au moment où lui il va dans le vaisseau, je pense pas que les autres le suivent.
Il y a qu'un seul être humain qui va.
Mais il y a quand même beaucoup d'êtres humains préparés, mais les petits gris ils viennent chercher lui spécialement.
C'est vrai, les petits gris, ouais, ils sont.
Ils se mettent autour de lui, ils le mangent, ils le dévorent. Non, ça c'est aussi.
Les petits gris, d'ailleurs, ils ont pas bonne réputation, hein, des fois, dans le cinéma de science-fiction, parce que, ils ont cette grosse tête, tu sais, avec les gros yeux, enfin, on a cet archétype de.
Bah, ça dépend.
D'extraterrestres avec les grosses têtes et des gros yeux.
Dans le cinéma de science-fiction, ils ont pas bonne réputation. Par contre, dans les séries télé, si c'est dans X-Files, ils ont pas bonne réputation.
Du tout.
Mais si c'est dans Stargate, ils ont une bonne réputation.
Ah ouais, tu parles des
Asgard.
Des Asgard, ouais. Thor, le chef des Asgard. Attention, on parle pas du MCU, mais on parle de la série Stargate SG, hein.
Oh, mais ils ont des fonds verts dégueulasses aussi, hein.
Ouais, mais c'est de la série, c'est plus pardonnable, quand même, hein. Je sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le film, ou je peux peut-être passer à quelques anecdotes concernant les différentes versions?
Non, vas-y, passe sur l'anecdote.
Alors, il faut savoir que, bon, déjà, il y a eu plusieurs versions de ce film. Il y en a une qui est sortie en 77. En 80, Spielberg s'est dit, ah bah, je vais faire un petit peu comme George, je mets des scènes en plus. Alors, il a rajouté la scène dans le désert de Gobi avec le bateau, tu sais, le bateau dans le sable. Et il a rajouté aussi cette scène que tu avais vue aussi. C'est cette scène à l'intérieur du vaisseau. Alors, toi, est-ce que pour toi, elle est utile au récit, ou est-ce que tu considères que ça comme un gadget?
Bon, je considère ça comme totalement inutile, et en plus, je trouve que ça casse le film. Ouais, parce que du coup, il te montre un peu l'intérieur, et du coup, ça enlève une bonne partie du mystère, je trouve. Donc c'est un peu dommage. Moi, je préfère que ça reste mystérieux, tu vois, il va vers l'inconnu, plutôt que ce soit l'inconnu qui se dévoile voilà, devant nous. Puis ça, du coup, moi, je trouve que ça casse l'imaginaire, parce que tu n'arrives pas à te projeter dans ta propre image que tu as, et on t'impose une image, et ça me gêne un peu plus.
Moi, je vais pas cracher sur cette scène, parce que moi, je la trouve, d'un point de vue visuel, je trouve qu'elle est assez féerique, comme je me plais à le dire. Je peux comprendre ton sentiment, parce qu'elle porte rien d'un point de vue narratif, quoi, c'est ça.
Après, c'est vrai que niveau visuel, non, elle est top, là, faut pas revenir dessus. C'est vraiment une très belle scène visuelle, mais j'aime pas qu'on m'impose ma propre vision de ce que je me fais dans ma tête, de ce que devrait être le voyage, quoi.
Il y a le pouvoir de l'imaginaire qui te joue aussi là-dedans.
Ouais, ça me gêne un peu plus, ouais, au niveau de l'imaginaire, mais sinon, ouais, cette scène, elle est bien quand même.
Ouais, ouais. Voilà comment on a un petit peu résumé une ou deux scènes qui agrémentaient les différentes éditions spéciales, parce qu'il y en a eu trois en tout, et même Steven Spielberg a lui-même décidé de retirer cette scène de l'intérieur du vaisseau, parce qu'il estimait qu'il faisait un peu trop de Lucas, c'est-à-dire de mettre des scènes qui servent à rien et qui n'ont aucun intérêt. Voilà, quoi, un petit pique envers Star Wars de temps en temps.
Ouais, bah, notamment trois scènes dans Star Wars qui servent à rien. Ouais. Star Wars 7, Star Wars 8, Star Wars 9.
Peut-être passer sur d'autres anecdotes, bon, du style, ben, les effets spéciaux sont signés par quand même deux grands artistes qui sont Douglas Trumbull, qu'on connaît surtout pour les effets spéciaux de 2001 de l'espace, Blade Runner et le dernier film, j'oublie tout le temps, mais c'est pas grave. Mais bon, il y a Carlo Rambaldi aussi, dont on parlera après. Et au niveau du design artistique, ben, on retrouve le grand Ralph McQuarrie, qui est quand même à l'origine de l'univers visuel de Star Wars. Si vous avez vu tous les making-of de Star Wars, vous avez au moins un visuel de Ralph McQuarrie, vu que c'est lui qui a créé quasiment tous les mondes et toutes les planètes les planètes et les vaisseaux de Star Wars.
Ouais, tout ce qui est, on va dire, le background de Star Wars.
Le background, exactement.
Ah, si je sors pas un background une fois de temps en temps.
Ce qu'on appelle l'arrière-plan, enfin, les coulisses du tournage. Voilà, quoi. Mais bon, cette mélodie, elle est un petit peu culte aussi, on va dire, parce qu'on peut l'entendre, par exemple, dans des films comme Moonraker, l'un des très mauvais James Bond, par exemple.
Ouais, ou Paul.
Ouais, Paul aussi, ouais, bien sûr. Il y a Monstre versus Aliens, on peut aussi l'entendre dans 2h15 avant Jésus-Christ, de Jean-Yann avec Coluche, par exemple.
Ah, j'ai pas le souvenir de cette scène, c'est dommage.
Si, c'est quand il compose le code, quand il rentre dans la boîte gay, tu sais, quand il suit César.
Ouais.
Donc, voilà, quoi.
Du vécu. Et,
c'est pareil pour Moonraker, en fait, c'est quand James Bond est dans la station spatiale, et il compose le code, et c'est cette mélodie-là. Il y a même des espèces de pastiches dans les séries South Park ou Simpson, par exemple, aussi.
Après, arriver à faire un thème musical juste avec 5 notes, c'était balèze quand même.
Hmm. Ouais, puis bon, de toute façon, on connaît John Williams, hein. Est-ce qu'il faut présenter John Williams, franchement, parce que je pense qu'il a fait toutes les musiques des films de Spielberg, que ce soit de Dents de la Mer à son dernier film.
Ouais, même les Indiana Jones. Il y en a tellement fait, John Williams.
De toute façon, si on peut citer Indiana Jones, on cite aussi Star Wars. On cite
Jurassic Park.
Superman aussi, Superman. Comme tu le disais. Tous des grands thèmes qui sont vraiment restés dans le collectif fanboy, quoi, on va dire. Mais il faut citer tous ces grands qui participent quand même à ce chef-d'œuvre. Hein, c'est un chef-d'œuvre. Hein,
la musique en fait beaucoup. Hein, dans le film, le thème sonore en fait quand même pas mal.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense qu'encore, on parlera de thé, parce que pour moi, il y a plus d'impact dans la bande son de T que dans celle de Rencontre du troisième type. Mais bon, ça, on y reviendra après. Voilà, quoi. Bon, petite anecdote, c'est qu'en fait, ce film devait avoir une suite qui devait s'appeler Night Skies. Et en fait, cette suite ça a servi de scénario de base pour E.T. justement. Donc voilà quoi. Voilà un peu l'espèce de liaison qu'on peut avoir entre les deux films. D'accord. Et c'est pour ça que bon, j'en ai fini avec les anecdotes. Et c'est pour ça que on va tout de suite enchaîner sur E.T. l'extraterrestre, qui est une suite indirecte de Rencontre du troisième type. Alors E.T. l'extraterrestre.
Alors il est du Pas-de-Calais, c'est ça? C'est Ichti. Alors pour la blague, c'est fait.
Donc non, E.T. l'extraterrestre. E.T. avec réalisé en 1982, toujours par Steven Spielberg bien sûr, avec dans le rôle principal Henry Thomas. Dans le rôle du jeune Elliot.
Ouais.
Donc E.T.
Et Jeanne Moreau dans le rôle d'E.T.
Il peut pas s'empêcher, hein, mais bon.
Non, je peux pas. Donc, voilà. Que moi.
Donc E.T. l'extraterrestre, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler l'histoire? Parce que elle est assez basique, finalement, l'histoire. C'est la rencontre entre un jeune extraterrestre et un jeune terrien, quoi.
Ah, c'est quand même un Jedi, hein, l'extraterrestre.
Ouais, mais ça, on en parlera un petit peu plus dans les anecdotes, ouais, si tu veux.
Non, voilà, un explorateur scientifique extraterrestre, ouais. Je suppose, parce qu'il cueille des plantes, puis qu'il se retrouve abandonné par son équipage, parce que, bah, il est arrivé quelque chose et ils ont dû se barrer en courant, quoi, enfin, en volant, du coup. Et puis, du coup, bah, il se retrouve seul sur Terre, puis il va devoir s'adapter.
D'urgence, quoi. Il y a une urgence, et voilà, quoi. Et
c'est seul sur Mars, mais seul sur Terre.
Ouais, c'est ça. Que toi, tes souvenirs au niveau de ce film, parce que moi...
Bon, comme tu disais, ce film, il devient plus une comédie familiale.
Ouais, divertissement, je dirais.
Un divertissement familial. Ouais. Bah, c'est un peu marrant comme film aussi.
Oui, aussi, on va dire.
Bon, après, il y a des moments où c'est déjà moins marrant, mais...
C'est triste, hein.
Voilà, ça reste un film dans les années 80 où c'est les ados qui règlent la situation, quoi.
Ouais, c'est déjà le l'esprit Amblin. C'est-à-dire les films, la Retour vers le futur, je parlais de Gremlins, je peux parler aussi de, par exemple, de Goonies, tu vois, tous ces les ados deviennent les héros des films, quoi. Le secret de la pyramide, tu vois.
Bah, c'est des films où l'adulte a pas la vision d'enfant et l'adulte cause plus de problèmes que ceux qui ont la vision enfantine.
C'est ça, c'est que les adultes, bah, ils sont un peu boulés, quoi, dans ces films-là. Hein. Bon, là, il est poursuivi, une fois de plus, poursuivi par le gouvernement, parce que...
Bah là, cette fois-ci, tu vois, il est poursuivi par le gouvernement. Il est pas, ils sont pas en recherche, ils sont pas en recherche de contact, ils sont là pour mettre la main dessus, quoi.
Ouais, c'est ça. Ce conte, c'est un conte, hein, pour moi.
Ah, c'est un conte, puis t'as un peu la magie de l'enfance qui est là au début. Hein.
C'est pour ça que ça a cartonné au box-office. Hein. Ouais. C'est-à-dire c'est le plus gros carton de l'année 82, alors que cette année, il y a plein de films de science-fiction qui sont sortis. Je peux citer Tron, Star Trek 2, Blade Runner. C'est une année qui a été fertile en sortie SF. Hein. Et pourtant, E.T. il a tout azimuté. Quoi.
Ah, il a tout pour lui aussi. Hein.
Ouais. T'as la qualité des effets spéciaux, parce que l'extraterrestre, il est super bien animé. Là, je parlais tout à l'heure de Carlo Rambaldi, mais c'est lui qui a animé l'extraterrestre. Et puis t'as aussi le jeu d'Henri Thomas qui est très émouvant. Il y a cette histoire qui est quand même assez émouvante. Hein. On peut pas dire qu'on verse pas notre larme quand E.T. repart chez lui. Quoi.
Ouais, ou même quand on croit qu'il va crever.
Oui,
comme
c'est
ça, tu vois,
cette scène. Ouais.
Et puis ils ont une. Enfin, tu vois que les deux ont une symbiose entre eux qui fait des moments assez comiques d'ailleurs. Mm-hmm. Quand E.T. est bourré et que Elliot y est bourré à l'école, tu te dis, merde, il y a une symbiose entre eux. Donc ça te pose question aussi de une dépendance à l'extraterrestre qui est dépendant à l'humain et vice-versa. Et puis voilà, ça te fait des scènes cocasses. Et puis quand E.T. repart, c'est que Elliot doit sortir de l'enfance aussi, tu vois. Il y a tous des analogies comme ça que j'ai trouvées. C'est quand même un film qui, du coup, je trouve que tu peux plus t'identifier dans ce film-là que dans un Rencontre du troisième type.
Ouais, c'est sûr que c'est l'enfance, hein, c'est le thème préféré de Spielberg déjà. Puis il y a toujours le thème de la famille qui est très présent dans l'œuvre de Spielberg, parce que on sait que Spielberg a une enfance assez difficile, c'est-à-dire que ses parents ils ont divorcé alors qu'il était très jeune, par exemple, et ça se reflète chaque fois qu'il crée une histoire, qu'il filme une histoire. Il y a toutes les marques du cinéma de Spielberg dans E.T. quoi, tout est posé. Plus que l'histoire, c'est vraiment une amitié universelle dans ce film, quoi.
Au-delà des différences, en plus.
C'est ça, c'est ils sont tous les deux fantastiques. Moi, je dirais aussi bien qu'Henri Thomas que la créature, parce que la créature elle est super expressive, quoi.
Ah, pour l'époque, même encore maintenant, je suis désolé, la créature elle est super expressive.
Parce que là, ils ont
rien à voir.
Ouais, parce que là, bon, je vais un petit peu glisser vers les anecdotes en disant qu'il y a eu une édition spéciale de E.T. où d'ailleurs ils ont refait quelques plans avec E.T. mais numériques, mais ça fait pas du tout le même effet, quoi.
Bah, Yoda numérique, il faisait pas le même effet.
Ouais, c'est sûr.
Tu vois, le numérique, ça a du bon quand ça nourrit ton film. Mais si la marionnette se suffit elle-même, puis on y croit à fond, à part quand elle est dans le panier du vélo, parce que là, ça rend plus.
Ouais.
Mais sinon, je veux dire, voilà, quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, bien tourné, bien monté, et bien, animatronisé, ça va pas se dire, hein, mais quand le marionnettiste fait bien son boulot, tu y crois à fond.
Je veux dire, la pâte artisanale qui fait beaucoup dans ce film, hein, aussi.
Ah, puis c'est bien, c'est super bien monté, quoi.
Alors, l'édition spéciale, pour revenir à l'édition spéciale qui est sortie en 2002, faut quand même se connaître que un an plus tôt, il y avait eu l'attentat du World Trade Center. Donc, Spielberg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé tous les armes à l'écran par des talkie-walkie. Et Spielberg s'en est voulu, donc il a déclaré qu'il avait fait une énorme connerie et qu'il a décidé de remettre l'ancienne version justement en valeur, parce qu'il dit que cette histoire de talkie-walkie, bah, finalement c'était un peu une erreur de sa part, quoi.
Tu vois, on est influencé des fois, ouais, par des éléments qui nous dépassent, on s'en rend compte que plus tard.
Mais dans l'ensemble, E.T. a quand même, il y a une belle édition Blu-ray, mais c'est la version d'origine que vous avez, quoi. C'est pas Lucas et son édition spéciale, quoi, où quasiment il y a tous les plans qui sont retouchés, où ça ajoute des scènes à droite et à gauche, et avec une version originale qu'on peut pas retrouver, d'ailleurs, qu'on ne peut plus retrouver en HD. Elle est pas disponible du tout, d'ailleurs, la version de 77, 80, 83. Cette version-là, elles ont complètement disparu. On peut les avoir en DVD, mais dans une qualité qui est vraiment dégueulasse, on va dire. Je me détourne un petit peu, c'est juste une question technique.
On se détourne toujours.
Ouais, ouais. Mais voilà, quoi, pour extraterrestre, bon.
Ça suffit à lui-même.
C'est un film qui parle de lui-même, c'est un film qu'il faut regarder tous les ans, c'est un film vraiment qui est fait pour Noël, pour moi.
Entre Mary Poppins et un film sur les extraterrestres.
Bah, complètement, quoi. C'est ça, c'est le conte moderne, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est un conte féerique familial.
Ouais, ouais. C'est tout, quoi. Voilà, il y a eu d'ailleurs, en 2019, un petit court-métrage. On parlait du court-métrage publicitaire qui était initié par Xfinity, qui est une espèce de chaîne câblée, d'après ce que j'ai pu comprendre, aux États-Unis. Et là, bah, justement, t'as le fan service qui joue, mais t'as quand même un petit peu une petite larme qui vient quand même.
Ouais, c'est un spot pub, forcément, ah oui, t'as du fan service.
C'est fait vraiment de belle façon.
Bon, la petite larme, je l'ai pas eue.
Tu l'as pas eue?
Non.
Mais bon.
Alors, j'ai trouvé ça marrant à regarder, c'est tout.
Ouais. Peut-être qu'on perçoit pas peut-être le film de la même façon, et pourtant, je suis pas non plus un fan de E.T. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'était bien fait, et que, bon, il y avait ce côté un peu, on est emporté par le fait que Elliot retrouve son pote, on va dire, 20 ans après, tu vois, 30 ans, plutôt 30 ans.
Ouais, 30 ans après, ouais. C'est le père de famille.
Ouais, ouais, il est père de famille, il présente ses enfants, il y a la scène du vélo, il y a le thème de John Williams, j'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, la musique de John Williams. Ouais. Parce que dans cette bande-son, c'est magique, quoi, quelque part.
Ah, la bande-son,
c'est... Ouais, ça t'emporte, quoi.
Ouais, c'est une bande-son un peu plus... je vais pas dire enfantine, parce que c'est pas ça, mais... Voilà, c'est moins une bande-son un peu moins sérieuse que dans Rencontre du Troisième Type.
Ouais, c'est ça.
Elle fait rêver un peu plus, la bande-son, voilà.
Il y a moins de gravité dans la musique, quoi.
Ouais, puis t'es emporté par la bande-son, t'es joyeux, t'es content, t'es pas inquiet dans la bande-son.
Il y a vraiment des notes qui résonnent vraiment dans le...
Magique, voilà, ouais, la bande-son est plus magique.
Magique, on pourrait utiliser tous les superlatifs pour cette musique, parce que c'est vraiment un gros complément au film, quoi.
Ouais.
On peut pas la dissocier, quoi. Enfin, on peut l'écouter hors du film, et ça nous ramène justement les images du vélo qui vole ou d'autres trucs, parce qu'il y a tellement de scènes cultes là-dedans, on peut pas se déparer, quoi. John Williams, Spielberg, ce sont des, on va dire, des atomes qui peuvent pas se séparer, quoi, pour moi.
Ouais, c'est des atomes crochus.
Ouais, ouais. J'avais peut-être quelques petites anecdotes concernant Star Wars, parce que, bien sûr.
Ah, ça tombe bien, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Ça fait donc exactement 3 minutes que j'ai pas parlé de Star Wars, je suis en manque. Donc on parle de Star Wars et de la petite figuration dans l'épisode 1, justement, la fantôme menace, la menace fantôme.
Avec Jar Jar menace fantôme.
La salle de la scène du Sénat, où on voit vraiment, on voit la race de E.T. justement se plaindre du chancelier, cette scène-là, où et justement dans le Star Wars fandom, ils ont brodé toute une espèce de monde et de race. Alors, tu vois, par exemple, ils ont nommé ces races les Asogiens de la planète Brodo Asogi, et donc et le sénateur qui mène justement ce groupe, c'est, alors je sais pas si tu vas faire la liaison, c'est Greb Leibs.
Ouais, Steven Spielberg.
Spielberg à l'envers, en fait.
Spielberg à l'envers.
Donc c'est un clin d'œil à Lucas, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Mais bon, ça c'est un peu basé sur un roman qui s'appelait La Planète Verte, qui est sorti en 85. Donc un roman de William Cotes Whitkell, où justement on en apprend plus sur la nature de E.T., quoi, tu vois. Que ce sont des extraterrestres qui vivent sur une planète où il y a que de la verdure, quasiment, ou ce sont des écologistes dans l'âme, quoi, finalement. Tu vois. Donc tu parlais tout à l'heure d'un extra de E.T. qui collectait des plantes. Ouais. Et ben c'est ça quoi. En fait,
on retrouve d'ailleurs dans la scène finale dans le vaisseau, il y a grosse collection de plantes.
Ouais, c'est ça. Ce sont des écologistes, comme je disais, ils ont de leur profession de foi, c'est de l'écologie quoi, si tu veux dans ce roman. Je ne vais pas tout développer sur le Star Wars fandom, mais vous irez voir la page spéciale. Il y a d'ailleurs ce site qui est Wikipédia, qui est très développé. Vous en apprendrez aussi. Ben, d'ailleurs, on voit une espèce d'E.T. qui converse avec Luke dans une case. J'ai trouvé ça très amusant, mais bon. C'est le côté, l'univers étendu. C'est vrai qu'on en apprend quand on est sur cette page. On passe d'un extraterrestre à une planète, à un vaisseau, et puis on n'en finit plus, quoi, sur Wikipédia. Ben voilà, quoi. Mais t'as plus rien à dire sur E.T. Ça t'a pas marqué plus que ça
Bah si, c'est un film familial, déchirant. Ouais. En plus, je l'avais vu avant Rencontre du Troisième Type. Mais la première fois que je l'ai vu, moi, j'étais un gamin, donc je l'ai pris comme un film pour les gamins. Voilà, et après,
tu avais quel âge quand tu l'as vu?
Je sais pas, je vais avoir 5-6 ans. Hein.
Ah ouais, quand même.
Donc après, quand je l'ai revu un peu plus dans un aspect plutôt mythologique que film, c'est là où tu peux te poser des questions. Et tu te poses plus de questions sur ton propre fondement dans un Rencontre du Troisième Type que dans un E.T.
Est-ce que, si par exemple il ressortait au cinéma, est-ce que tu irais le revoir par exemple?
J'irais pas voir un préquel ou un remake. Hein.
Non, je parle de...
Non,
l'original quoi, par exemple.
Non, j'irais pas le revoir au cinéma.
Pour retrouver un petit peu ses sensations. Quoi.
J'irais même pas voir un Rencontre du Troisième
Type.
Non plus,
tu irais pas le revoir non plus.
Non, non. Là, c'est des rares films où j'ai les DVD. E.T., Rencontre du Troisième Type, ouais. J'ai les DVD. Mais j'irais pas le revoir au cinéma, je suis pas ultra fan comme ça.
D'accord. T'es un peu moins cinéphile que moi, quoi.
Non, puis je vois pas. Voilà, c'est des films. Je vois pas l'intérêt d'aller voir en grande salle.
Voilà, quoi. Rencontre du Troisième Type, E.T. Deux films qui se complètent très bien, finalement.
Oui.
Après, Rencontre du Troisième Type et E.T. l'extraterrestre, on va entamer la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu plus succinctement, on va dire, de quelques films et de quelques séries. Bon, la liste va pas non plus être très exhaustive. Hein. On a fait une sélection, hein, parce que sinon, ça ferait un podcast de 3 heures.
Ouais, puis voilà, un enregistrement de 15 jours en consécutif, ouais. Ça va être compliqué à écouter.
Et puis, au niveau montage, ce serait pas non plus super pratique, on va dire. Mais on va commencer par, je dirais, un petit peu des films populaires. Qui sont un peu des classiques dans leur forme, même s'il y en a un que tu dis, ouais, c'est un navet, c'est un nanar, mais bon, moi je suis pas d'accord, mais on en discutera tout à l'heure. Mais on va commencer déjà par un classique de ces classiques. Pour moi, il est un petit peu au même rang que La Guerre des Mondes, mais avec dans une optique différente. C'est Le jour où la Terre s'arrêta, réalisé en 1951 par Robert Wise. Alors, Robert Wise, c'est un grand réalisateur, il a fait beaucoup de films, dont West Side Story, et c'est lui qui a d'ailleurs réalisé le premier Star Trek, tu sais, celui avec où on voit le vaisseau pendant une demi-heure, tourné autour du pot. Donc c'est un fabuleux réalisateur, il y a beaucoup de films, il faut explorer sa filmographie pour... Il y a aussi fait la Maison du Diable, c'est pas Amityville, hein, c'est une autre version en fait. Mais voilà quoi, c'est Robert Wise, c'est un grand cinéaste qui a marqué aussi le monde du 7e art. Et on retrouve dans le rôle principal un certain Michael Rennie qui n'a pas fait beaucoup de carrière, mais qui là-dedans fait quand même assez impression. Est-ce que toi, apparemment, tu as beaucoup apprécié le film, déjà parce que y a un fond qui te parle beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, un peu l'histoire, enfin les principaux thèmes du film, quoi.
Bah, le principal thème du film, c'est pas vraiment les extraterrestres, c'est plus un prétexte. Et en fait, c'est la déchéance de l'humanité, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, c'est bien résumé, parce qu'il l'a dit plusieurs fois dans le film. Moi, j'en ai rien à faire de vos querelles d'enfants. Ce que je voudrais, c'est parler à tous les peuples. Parce que vous avez la bombe atomique, vous commencez à construire des fusées. Si vous venez, foutre la merde dans l'espace, on va vous buter.
Oui.
Le résumé du film, c'est ça.
En fait, c'est ils sont amicaux, mais ils sont quand même, on va dire...
Ils sont bienveillants, mais ils sont...
Ouais, il y a quand même une barrière, quoi. Ils montent une barrière.
Il y a une barrière, parce que... Ouais. Bon, après, je vais pas venir à la fin directement.
Non, on va pas spoiler.
Mais le message, c'est carrément... voilà. On est là, on sait faire ça. Après, on en reviendra plus en détail. Mm-hmm. Calmez-vous. Faites ce que vous voulez sur votre planète, c'est pas notre problème. Calmez-vous, sinon on vous pète la gueule.
Ouais, je suis pas trop...
Venez pas nous emmerder, sinon on va vous péter la gueule.
Partage ton opinion, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'inquiète quand même de l'avenir de l'humanité par rapport à tout ce qui est nucléaire, parce que ce film, quand même, il est un peu dans cette période où on commence à avoir peur de la bombe nucléaire, de tout ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale, finalement.
Bah, clairement, c'est... J'appelle ça le film, c'est un film à l'effet Godzilla, c'est-à-dire que Godzilla est sorti après. C'est-à-dire qu'il y a eu la bombe nucléaire, qu'est-ce qui pourrait nous faire encore plus peur? Un extraterrestre inarrêtable.
Tout à fait.
Ou un monstre géant de 300 mètres de haut. Ou Macron président. Enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs qui pourraient nous effrayer.
Je crois que le plus dangereux, c'est le dernier, mais bon. En plus, ça arrive et c'est ça le problème. Mais il y a déjà, bon, l'extraterrestre, c'est Klaatu, hein. C'est une icône de la culture pop, hein, quelque part. Puis t'as surtout ce robot là qui est indestructible, quoi. C'est Gore, je crois, un truc comme ça.
Le nom du robot, je m'en souviens plus.
Je crois que c'est Gore, ou quelque chose comme ça.
Ouais. Et puis voilà, il vient en portant un message. Donc voilà, il débarque, alors que c'est la panique, panique à bord, tout le monde a peur, etc. Donc il débarque sur la planète et il vient porter un message, mais bon, les gens ils ont peur. Il sort un machin de sa... Enfin, il n'y a pas de poche. Il sort un objet et paf, il se fait tirer dessus.
C'est ça.
Alors du coup, il dit merde, c'est dommage parce que ce que je venais vous apporter, c'est un truc pour observer les étoiles pour votre président. Et puis après, il se retrouve à l'hôpital et il dit là, j'ai un message à délivrer. Il faut que je rencontre tous les dirigeants parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les Américains qui aient le message.
Il faut qu'il y ait l'ONU, quoi.
Ouais, il faut qu'il y ait l'ONU. Et puis ça va pas parce qu'en même temps, 51, voilà, guerre froide, juste après la guerre, les pays se reconstruisent. Le représentant de l'humanité est très honnête en disant je vais tout tenter, mais ça va pas être possible.
Ouais, c'est tout à fait ça, je suis d'accord avec toi.
Et là, là, l'extraterrestre, il a le parti pris, hein, c'est-à-dire qu'il dit, il comprend pas trop pourquoi il peut pas, donc il est assez vindicatif et tout, puis après il dit, il cherche à comprendre, il dit, bah tiens, je vais me mêler à la population pour essayer de comprendre.
Il veut essayer de comprendre justement comment fonctionnent les hommes, ben il se rend compte qu'il y en a des, bons, puis il y a cette femme là.
Puis surtout Billy, le petit,
le gamin.
Beaucoup de foi en l'humain, mais en l'humain encore jeune, quoi.
Ouais.
Encore malléable, où tu peux lui dire...
C'est le...
Encore celui qui n'est pas vindicatif, qui ne va pas faire trop de conneries maintenant.
Ouais, c'est l'avenir de la génération future, quoi.
Ouais, la génération future, exactement. Ouais.
Et puis, il y a aussi l'aspect... Bon, il est trahi aussi, hein, parce qu'il y a toujours un traître dans l'histoire. Et il y a aussi le fait que, bon, les militaires ne sont pas vraiment non plus montrés sous un super jour, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ils sont quand même assez idiots, parce que...
Alors, j'ai beaucoup de trolls à faire sur les militaires.
Voilà, quoi, mais...
C'est quand il y a une nef... Ouais. Interstellaire qui vient se poser sur la planète, tu mets pas que deux gardes. Tu mets toute une batterie de gardes, au moins 200. Ouais. Bon, d'accord, le robot il détruit les tanks, donc tu mets pas de tanks, mais tu mets pas que deux militaires à l'accueil, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule au niveau budget. Je sais pas si c'est arrivé, mais bon, dans les films modernes, t'as tout l'armée qui débarque, quoi, carrément.
Bon, ouais.
Comme dans la dernière version de 2003, par exemple, tu vois.
Ouais, là, c'est carrément le complexe militaire qui se fait autour et tout.
Ils sont super armés, ils sont prêts à tirer, mais bon...
Ouais, puis ils analysent, ils font des trucs.
Là, t'as deux malheureux soldats qui se baladent avec leur carabine, tu vois.
Ouais, puis ils essayent d'ouvrir le vaisseau. C'est le seul moment où il y a beaucoup de militaires, c'est quand ils essayent d'ouvrir. Et puis après, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à l'ouvrir, c'est « bon, on met plus que deux gugus et on construit une palissade autour ». Ok. On a 51...
Ils essayent de l'ouvrir avec un pied de biche ou quoi, je sais pas quoi.
Ah bah un chalumeau, un pied de biche, une foreuse à diamant. Ouais, on n'y arrive pas, puis on n'arrive pas non plus à ouvrir le robot. Non mais il vient de détruire deux tanks. Laissez-le tranquille le robot.
Ouais. Vu les dégâts qu'il peut faire.
Ah ouais.
Ouais, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette version?
Ouais, l'analogie de ce film, elle est excellente. Parce que je veux dire, il apprend à connaître l'humanité, et puis même, il sait qu'il va se faire buter, quoi, et il le sait, et il dit à la femme, va dire à mon robot ces trois mots, puis tu te demandes ce que c'est, qu'est-ce qu'il va faire, puis en fait, le robot, il va juste chercher le corps pour le ressusciter.
La fameuse phrase culte, on va dire,
ouais,
du film.
Ouais, je l'ai pas retenu, hein.
Klaatu, Nick Dara, je sais pas quoi.
Ouais, Nick Dara aussi.
Non, on n'ira pas jusque-là, mais c'est un dialecte vraiment bizarre, quoi.
Non, puis voilà, puis il délivre. Ah ouais, justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive à délivrer son message au monde entier par les scientifiques. C'est le petit qui lui fait remarquer que les humains, ils écoutent pas, mais qu'on va aller voir le professeur parce que tout le monde écoute les professeurs et les scientifiques. Et là, du coup, l'extraterrestre, il se dit, mais ouais, c'est ça. Il dit, je passe par tous les scientifiques et mon message sera délivré. Et là, c'est le cas.
C'est encore la démonstration que les politiciens, ils écoutent rien et qu'ils en font qu'à leur tête, quoi.
Bah, c'est aussi la démonstration que les politiciens, ils sont là pour penser à leur carrière.
Ouais.
À l'époque, en 1950, les scientifiques, ils avaient la réputation d'être là pour apporter un renouveau à l'humanité. Ce qui est plus trop le cas maintenant.
Non, c'est sûr.
Et tu vois, le message est délivré par les scientifiques. Et même sa propre existence à l'extraterrestre, il se dit, n'a pas d'importance. Parce qu'il dit très bien à la femme qu'il a été ressuscité, mais il sait pas pour combien de temps. Et il délivre son message. Et après, le message est clair après. Toi, il s'en va, il dit, voilà. Le message, il dit, ouais, on a vu vos expériences atomiques de l'espace. On a vu que vous construisez des roquettes. Vous n'allez pas tarder à entamer, en gros, la conquête spatiale. Vous faites ce que vous voulez sur votre planète. C'est-à-dire, tant que vous chamaillez entre vous, entre vos peuples, nous n'interviendrons pas. Mais on a une série de machines qu'on a créées pour nous protéger, de nous-mêmes aussi, parce qu'il dit que même eux, s'ils font une connerie, les robots détruisent leur planète aussi.
Bah, ils disent pas qu'il y a eu une guerre sur leur planète et que...
Non, ils disent justement qu'ils ont créé les robots, parce qu'en fait, les robots,
ils régulent, quoi.
Ils régulent, c'est la police. Et même si les autres peuples feraient une connerie, le robot détruirait la planète.
D'accord.
Les robots sont inarrêtables. Et il leur a dit que si jamais ils venaient en les paix, il serait accueilli. Et s'ils viennent en belliqueux, ils seraient détruits.
En fait, c'est les sentinelles, quoi, quelque part. Ouais, c'est des... Je ne vais pas faire un rapprochement avec eux.
C'est des manhunters de DC, hein, ouais. C'est-à-dire qu'elles sont là pour faire la police.
Moi, je dirais plus que les sentinelles, mais bienveillantes, quoi. Pas les sentinelles qui vont détruire les X-Men, quoi.
Ni bienveillantes, ni malveillantes, elles sont neutres. Hein. Elles ont des ordres, la paix avant tout. Puis bah, s'il faut tuer pour la paix, elle l'a fait, la sentinelle.
Ah ouais, il faut exterminer, ouais.
Il y a deux soldats qui sont exterminés, voilà. Mission, c'est une sentinelle, comme tu dis. Elle a une mission, elle n'est pas montée sur Windows 95, donc ça va, elle marche bien. Et c'est une mission, elle le fera jusqu'au bout.
J'attendais de la placer, là, parce que c'est vrai que ils auraient fait appel à Jeff Goldblum pour trafiquer le vaisseau. Je pense qu'ils n'auraient pas eu de problème. Vu qu'apparemment, quand des extraterrestres arrivent sur Terre, il n'y a pas de problème. Windows 95, ils implantent le virus.
Tout est compatible. tourne encore sur Vista, les extraterrestres.
Voilà, quoi. Bah, justement, on parlait un petit peu de film moderne. On peut peut-être enchaîner sur la version de 2003, donc réalisé par Ernest Dickerson avec un certain Keanu Reeves. Tu connais Keanu Reeves?
Ah, je connais que son film principal, Point Break.
Ouais, mais là, ça, c'est un troll, ça, parce que bon, Point Break est un bon film d'action, et je n'en démords pas sur ce fait-là. Mais Keanu Reeves, le héros de Matrix, hein, justement, avec le quatrième qui va pas tarder à arriver, d'ailleurs. Voilà, quoi, mais avec tous les repas et tout ça, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'avant, d'après.
Matrix, c'est l'inverse. Il a été prévu pour 2022, il devrait sortir en 2021. C'est le seul film où il y en avance. Hein. Dans la version de 2003, sinon...
Ouais.
Voilà, le truc qui arrive sur Terre. Ah oui, il faut dire aussi dans la version de 51, pour montrer la toute puissance des extraterrestres et des robots. Aussi, ce qui fait, c'est que c'est pour ça que le titre, c'est le jour où la Terre s'arrêta. Mm-hmm. Il n'y a plus aucune électricité sur Terre, sauf dans les hôpitaux et les avions en vol.
Ouais, donc il y a une concentration de la paralysie, mais sauf dans les éléments vraiment vitaux.
Ouais, dans les éléments vraiment vitaux, il n'y a pas de paralysie, sinon ils paralysent la planète entière pour montrer.
Sinon, il y aura des morts de toute façon.
La toute puissance, c'est là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous, on a les moyens de carrément vous anéantir.
Ouais.
On peut tout paralyser, on peut vous anéantir. Et le film s'arrête pas là. Ouais. Contrairement au film de 2003 qui s'arrête au moment où la Terre est paralysée.
Ah, c'est ça.
Enfin, pas à ce moment-là, mais après, il reste 5 minutes et il est reparti.
Alors, dans le film de 2003, il me semble qu'il y a une scène d'intro qui se déroule en Antarctique.
Ouais.
Avec une boule qui arrive sur Terre et que finalement, au départ, le personnage de Klaatu, c'est, en fait, il prend l'enveloppe d'un explorateur qui est en...
Bah, c'est une équipe Stargate qui était partie chercher un nœud de PZ en Antarctique.
Il a trouvé un bon, tu sais, c'est la scène où il y a le rayon qui fuse, là, pour repousser les guaous. Le gros Deus Ex Machina, tu sais.
Ah ouais.
Mais bon, Stargate, ouais, en plus c'était au pôle Nord, cette histoire, mais bon.
Ah, j'ai cru que c'était en Antarctique. Ça collait bien avec mon troll.
Et donc, il prend l'apparence de cette personne, et bien, c'est un peu le même schéma que dans l'ancien film. À part que là, t'as vraiment le côté spectaculaire qui domine, quoi.
Bah, je te disais tout à l'heure, on dirait un Michael Bay. Hein.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout,
tout part en fumée, tout part en morceaux,
tous les cendres,
En cendres, ouais, carrément. Ouais. Et là, la toute puissance, c'est pas tellement on stoppe la Terre pendant 30 minutes, et on stoppe la Terre pendant 30 minutes et on pète tout. On est Michael Bay.
Et t'as la scène du stadium, t'as tous le stade qui part en fumée.
Ouais, ça c'est Magneto. Ah non, mais on est en deux films encore.
T'as aussi le camion là au départ, et puis c'est vrai que c'est le festival, quoi, des effets spéciaux de limite un peu dégueulasse, quoi.
Ouais,
déjà le robot, il est mal fait, je trouve.
Bah le robot, c'est un mélange entre un Terminator et un Transformers, quoi.
Puis je sais pas pourquoi il fait 4 mètres de haut, quoi.
Ouais, bah déjà, normalement, dans le 1951, il devait faire 2 mètres 50 de haut.
Ah ouais, mais...
Malheureusement, les acteurs sont pas aussi grands que ça, donc...
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais là, non, c'est la surenchère, en fait.
Ouais, c'est ça.
Puis ça raconte rien de neuf et...
Ça va pas, quoi.
Ça tue même le message d'origine.
Bon, Keanu Reeves, parce que bon, il a un jeu un peu monolithique, mais ça convient bien au personnage de l'extraterrestre. C'est pas lui qui est en tort dans ce film-là. C'est le scénario, c'est la façon de voir le remake. C'est encore une fois, c'est un remake qui fait à la va-vite, quoi. On dirait, c'est un film de studio. On sent le film de studio, quoi.
Bah, tu vois, on parle souvent des films qui comptent que sur leurs effets spéciaux. J'ai l'impression que bah là c'est le cas.
Puis il y a pas beaucoup de messages, il y a pas beaucoup de fond dans ce film là.
Non, après c'est moi l'avantage que je trouve à ce film, c'est qu'il m'a permis de m'intéresser à la suite de 1951.
C'est ça.
Mais sinon bof, quoi.
C'est
passable.
Vraiment, c'est vraiment passable, quoi.
C'est comme un Constantine, c'est oubliable.
Ouais, Constantine.
Ah bah c'était avec une Uri aussi d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Constantine, ouais, je dirais que Constantine est quand même plus divertissant que le remake de 2003. Il y a quand même certaines choses qui passent un peu mieux, même si bon, il trahit un peu l'esprit BD. C'est vrai que ce film il y a un peu insipide, quoi. Quand quand tu le regardes, quoi.
Il est oubliable, en plus.
Est-ce que le tour de la Terre s'arrête, il fallait faire un propos qui soit un petit peu d'actualité, quoi. Pas un truc complètement désuet, quoi. Limite désuet, quoi. Ouais, le nucléaire, certes. Mais bon, il faut parler aussi écologie ou destruction de la planète, quoi.
Ouais, réchauffement climatique, ouais. Élection de Trump, enfin, tout les trucs comme ça. Ouais.
Maintenant, c'est plus un vaisseau extraterrestre, c'est une espèce de boule qui émet de la lumière, là.
Une boule, hein. Enfin, c'est une boule, en fait, de flipper géante.
Une sphère qui évapore tout la planète, quoi.
Ouais, c'est ça, l'arme de destruction, c'est même pas le robot.
Puis bon, c'est vrai que t'as l'impression de voir un Transformer, quoi, des fois.
Ouais, je te dis, un mélange entre un T2 et un T-1000, enfin, le Terminator qui se construit tout seul,
ouais.
Et un Transformer géant.
C'est ça. Bon, on va pas s'éterniser sur cette... ce nanar, entre guillemets, on va dire. On va peut-être enchaîner sur un film des années 80, quoi. Le sympathique Starman, par exemple, en 84, signé par un immense réalisateur, moi, un réalisateur culte, John Carpenter. Est-ce qu'il faut citer John Carpenter? Est-ce qu'il faut citer ses films? Mais j'ai envie de me faire plaisir. Hein. Je vais vous citer, par exemple, New York 1997. Je vais vous citer The Thing. Je vais vous citer Invasion Los Angeles. Halloween. Bah oui, j'ai oublié Halloween, vu que c'est bientôt la période aussi. Et bien là, avec Starman, bon, il rentre un petit peu dans le film de commande, parce que c'est pas vraiment le style qu'on attendait de Carpenter. Il est plus dans le film nihiliste. Et là, il nous offre une espèce de conte où on retrouve justement Jeff Bridges et Karen Allen dans les rôles principaux. Alors, Jeff Bridges, on le connaît parce qu'il a été le héros de Tron. Et Karen Allen, c'est quand même l'inoubliable Marion Ravenwood dans Les Aventures de l'Arche Perdue, par exemple. Pour l'exemple. Mais sinon, dans l'histoire, c'est... c'est une rencontre une rencontre, on va dire, un RR7, comme on disait tout à l'heure,
c'est une rencontre
plus intime, quoi.
Là, on les a invités, par contre. Parce que, en fait, c'est suite à la sonde Voyager qui s'est perdue dans l'espace. Mm-hmm. Enfin, perdue dans l'espace, c'est pas perdue. Elle a été interceptée, et puis, ils veulent rentrer en contact avec nous parce qu'on est rentré en contact avec eux. Et il dit bien qu'on est hostile au début du film.
C'est ça.
Quand il communique avec sa planète via ses petites boules de métal, hostile. Il nous a considérés comme hostiles. Ce qui est plus le cas à la fin, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Ouais, il change d'opinion. Donc, il traverse les États-Unis, hein, parce qu'il doit se rendre...
Ouais, c'est un peu un road movie aussi.
Ouais, ouais, c'est ça. Il doit se rendre à un point B avec le vaisseau qui doit revenir. D'ailleurs, c'est une espèce de sphère aussi, il me semble.
Et ils ont recyclé pour la rencontre du troisième type de 2003. Ils ont fait copier-coller.
Du jour où la Terre s'arrête pas, rencontre sans étude. Donc, il y a... c'est vrai que c'est souvent des sphères dans les films d'extraterrestres. Hein. Ouais, donc ils traversent les chemins des États-Unis, il y a de beaux décors, tout ça, il y a une espèce de suspense où ils sont encore une fois poursuivis par les services secrets.
Ouais, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il prend le total ADN du mari décédé comment elle s'appelle déjà ?
De Karen Allen, l'actrice. Là. Voilà, quoi, donc il y a une espèce d'espoir, et puis... on peut spoiler, hein, c'est qu'il y a un amour qui naît entre les deux, quand même.
Un extraterrestre, dès que ça a niqué, c'est mieux. Ils sont plus pacifiques.
Non, hein. Ils ont compris. Là, c'est un petit peu l'étude de l'humain, quoi. Tu vois, le rapprochement de l'humain.
Ah ouais,
quoi.
Là, elle étudie bien. il a bien étudié l'humain.
Voilà, quoi. Peut-être qu'ils connaissaient pas les relations sexuelles sur leur planète, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a peut-être une procréation par génétique ou autre chose.
Ça a l'air d'être des pures énergies, mais on peut que supposer.
C'est des trucs de lumière, quoi, on va dire. D'ailleurs,
rien à voir avec Charmed, hein. C'est pas des êtres de lumière dans Charmed. Hein.
On parlera d'êtres de lumière, d'ailleurs, après, hein, si tu te souviens bien. Ouais, c'est un beau film, c'est un beau conte, il faut regarder, mais...
Ouais, c'est plus un road movie. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est... Comment je pourrais dire,
il y a quand même des beaux passages, comme notamment il fait pas la différence entre, tu vois, il sauve une vie, mais il voit pas la différence entre sauver une vie humaine et sauver une vie animale. Tu vois, quand l'autre, le cerf, le passage avec le cerf, c'était étonnant parce que l'autre, la femme, elle dit quelque chose qui te préoccupe, ils ont tué un cerf, je trouve pas, enfin voilà. Puis il va sauver le cerf. Et il fait pas, c'est une forme d'énergie, pas de différence entre une vie animale et une vie entre guillemets humaine. Il fait pas la différence. Il apprend à la faire après.
Ouais, il y a cette vision un peu naïve des choses des fois, hein, l'extraterrestre, je trouve. Mais il garde quand même le souvenir qu'il vient d'ailleurs et que l'être humain c'est autre chose, quoi.
Oh, puis il est progressiste, hein. Il met la nana enceinte, il lui dit, si tu veux l'avortement, c'est maintenant. À un moment. Il dit, t'es enceinte, voilà, ce sera mon enfant, mais je peux l'arrêter tout de suite. Ouais, ils sont pro-avortement, hein. Après, c'est les débats, vous faites ce que vous voulez avec.
Non, mais bon, je pense que c'est un petit peu secondaire, cette histoire, mais je pense qu'on met en avant l'espèce de road movie, comme tu dis, et puis la relation qui, qui naît entre ces deux êtres.
Ah, le syndrome de Stockholm, c'est quand même bien.
Parce que c'est vrai qu'au début, elle a la peur, puis elle est un petit peu réticente à le suivre. Hein.
Ouais, puis pour finir, elle le suit de bonne volonté.
Ouais, jusqu'au grand départ, quoi, c'est tout. Mais il y a toujours cette histoire de caricature avec les services secrets qui le poursuivent, qui sont méchants, ceci, cela.
Bah justement, celui qui le poursuit, il devient, quand elle lui dit s'il repart pas, il va mourir, dans le restaurant indien, il les laisse partir, quoi. C'est là où c'est le seul qui le laisse partir.
Ouais, c'est ça, parce que les autres, ils sont un petit peu...
Et encore, c'est parce que lui, il étudie la possibilité des extraterrestres.
Mais c'est plus un scientifique, peut-être.
C'est plus un scientifique. Ouais. Bon, il fume le cigare comme Hannibal Smith. Et tu vois, c'est plus le scientifique. Et après...
Sûr.
Puis la police est très con. Hein. On a deux suspects, ça correspond signalement. Là, tu dis, ah, c'est pas eux. Bon, bah, salut, à bientôt. Merci, bon,
Ça arrive souvent dans les films qui reconnaissent pas leurs suspects. Hein. je veux dire que c'est pas non plus une tare. Mais bon. Voilà, Costarman, petit film sympathique, que je recommande de voir au moins une fois, quoi, on va dire. Voilà, je vais enchaîner d'ailleurs sur un autre film.
Qui a découlé sur une série télé aussi, Starman.
Oui,
qu'on connaît un peu moins, là. Hein.
Ouais, non, mais bon, ça a été diffusé sur Antenne 2. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait un peu sommairement. Starman, qui a été une série qui a été produite en 1986, donc développée par Bruce Evans et Reynolds Gideon, avec au casting Robert Reyes. Alors, Robert Reyes, principalement, on l'a vu dans la série des Yatine un pilote dans l'avion. Je sais pas si t'as vu ces films.
Ouais, je les ai vus.
Ouais, donc beaucoup de gags et tout ça. Mais c'est pas un acteur qui avait beaucoup de rôles. Hein. Pourtant, il était pas très mauvais, mais bon.
Ouais, mais quand tu fais ton premier rôle qui, entre guillemets, cartonne en tant que comique, tu perces plus après.
C'est vrai que, il faut peut-être persévérer dans le domaine et il a peut-être pas eu des propositions qui allaient dans ce sens.
Jim Carrey, il a eu beaucoup de mal à percer après. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il était cantonné à Comic The Mask. Après, il a fait du Ace Ventura, des trucs comme ça, puis il a eu beaucoup de mal à...
Puis après, il a
fait numéro 23 ou les autres trucs. Là, ça a été un peu mieux, mais il a eu du mal à s'en sortir.
Ouais, mais le grand...
C'est Truman Show qui l'a sauvé. Hein.
Truman Show, j'allais dire justement. C'est Truman Show qui a vraiment prouvé que Carrey pouvait faire autre chose que des grimaces. Quoi.
Ouais.
Donc cette série qui comporte qu'une saison de 22 épisodes, bah, c'est l'histoire de Paul Forêt, d'un journaliste qui s'écrase dans les rocheuses montagneuses.
Ouais, dans les Appalaches.
Donc, il meurt et Starman justement revient justement pour avoir de ses nouvelles de son fils qui est adolescent. Et donc il rejoint, il prend l'apparence de ce journaliste qui est mort. Il retrouve son fils quand même, mais qui lui dit qu'il a perdu sa mère en fait. Et donc là c'est la quête de la mère avec un très méchant agent des services secrets qui s'acharne comme un.
Ah, c'est les années 80. Ouais, il est marqué sur sa gueule, c'est un méchant. Ouais. Hein.
Il y a le stéréotype. C'est ça le problème, c'est que t'as les stéréotypes.
Les stéréotypes complets. Hein.
Ouais, ouais.
Gna, 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 je suis le méchant.
Puis t'as tout le temps cette scène un peu comique que t'avais un petit peu dans le film, mais où il est un petit peu maladroit avec les coutumes terriennes, on va dire.
En même temps, il devrait être, pas habitué, mais en connaissance. Parce que,
en tant qu'observateur, je pense que...
Si c'est le même, normalement... voilà.
Bah, c'est le même, en principe. Hein, il dit qu'il est son père, d'ailleurs. Il dit qu'il est son père.
Je suis ton père.
Ah non, mais je me trompe de film encore.
À mon avis, il a regardé l'Empire Contre-Attaque, mais bon, c'est tout.
Sorti juste après l'Empire Contre-Attaque, il dit « Oh tiens, je vais faire pareil !»
Donc, c'était cette série qui est, qui est anecdotique pour moi, qui ne vaut pas le coup de regarder.
De toute façon, elle est introuvable, donc même pour la regarder.
Bah, introuvable, non. On va pas dire ça.
Introuvable par les voies légales.
Elle est pas disponible en DVD, elle est pas disponible en Blu-ray, et apparemment ils sont pas décidés non plus à la sortir. Donc
c'est un peu normal. Hein.
C'est vraiment que la valeur commerciale est vraiment réduite à néant, quoi, quasiment, quoi. Voilà, petite parenthèse sur la série. On va enchaîner sur des êtres de lumière. Alors c'est Cocoon en 85, réalisé par Ron Howard. Alors, Ron Howard, faut pas le citer non plus parce qu'il a fait plein de beaux films aussi.
Bon, on le cite pas.
Il y a par exemple réalisé Willow dans les années 80, je sais pas si tu te souviens Willow. Il y a aussi fait pas mal de thrillers avec Mel Gibson. Puis c'est lui qui a fait Solo dernièrement. Si tu te souviens de Solo Star Wars.
Ah, un petit film bien franchisé, ça c'est bien.
Pour parler de Star Wars comme ça, parce que ça fait quand même quelques minutes qu'on parle pas de Star Wars, donc on est un peu en manque.
Il y a un manque là.
Ouais, il y a un manque. Donc, voilà quoi. Mais Ron Howard, un bon réalisateur assez honnête, qui fait de très bons films. Mais je vais pas tout citer, mais regardez sa filmographie. Et il y a quelques films qui sont vraiment très, très intéressants.
Ouais, et notamment Cocoon, hein, qui est vraiment bien. Hein. Là encore, ça en part sur une fable, en fait.
C'est ça.
Sur le rapport à la jeunesse.
Ouais, c'est l'histoire de la Fontaine de Jouvence, hein, quelque part.
C'est l'histoire de la Fontaine de Jouvence, pirate des Caraïbes avant l'heure.
Attends, le 4, il est horrible.
Il n'y en a que 3. Il y a que 3 John and Jones.
Il n'y a que ça aussi.
3 pirates des Caraïbes.
Donc au casting, on retrouve Brian Dennehy. Alors Brian Dennehy, on le connaît parce que généralement, il fait des rôles de méchants. C'était lui, par exemple, le shérif un peu sadique de Rambo, tu vois. Et puis il y a Steve Guttenberg. Alors Steve Guttenberg, lui, il est plus dans le registre comique parce que il a été longtemps le chantre de la série Police Academy. Je sais pas si tu te souviens de Police Academy.
Ah oui, je me rappelle.
Ouais, ouais. Donc il faisait plein de conneries dans cette espèce d'académie avec notamment un noir qui faisait des imitations.
Des bruitages.
Ou un basketteur qui claque des têtes.
Ouais, le gros balèze.
Ouais,
c'est
ça.
Clichés, quoi.
C'est
ça. Le nerd.
Ouais, ouais.
Le gros balèze.
Et t'as l'espèce de taré des armes, là, tu sais.
Le beau gosse qui sait tout faire.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Aussi, dans la Police Academy, t'avais l'espèce de taré, là, un peu de droite, là, avec son flingue tout le temps en main.
Ah,
là,
ouais, avec le flingue. Ouais, ouais.
Donc, un peu des stéréotypes, mais qui marchaient, quoi.
Ouais, c'était fait pour, hein.
Ouais.
À l'époque, t'avais le droit, hein.
Guttenberg, là, il est un peu plus sérieux parce que il se retrouve confronté à des extraterrestres qui reviennent avec des. Je crois que c'est il y a quand même plusieurs millions d'années qu'ils avaient déposé leur concombre au fond de l'océan.
On suppose même que c'est l'Atlantis.
Ouais, toi tu crois ?
Bah à un moment ils disent. Quand il y a eu le déluge, on a dû retourner sur notre planète, on n'avait pas de la place pour tout le monde, on a dû en laisser quelques-uns.
Il n'y a pas eu comme ça, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que ça pourrait très bien s'inscrire dans cette mythologie comme quoi les extraterrestres, les Atlantes seraient partis de la planète pour aller coloniser une autre, quoi, par exemple, tu vois. Donc ils reviennent, et puis il y a ces espèces de... Ces gens qui arrivent, un peu mystérieux, hein, faut le dire.
Ouais, puis c'est des petits vieux, en fait, qui ont l'habitude d'aller se baigner dans une piscine.
Ouais.
Normal, hein, c'est-à-dire, ils...
Ouais, mais les petits vieux, c'est pas les extraterrestres.
Non, pas les... Ouais. Il y a une maison de retraite, hein, tout
ouais,
simplement.
Ouais, c'est ça.
Puis il y a un groupe de petits vieux qui a toujours l'habitude, ouais, d'aller se baigner dans la piscine du voisin, qui est jamais là. Et puis, voilà, quoi. Puis un jour, ils voient que la maison elle est vendue. Voilà, mais t'en sais pas plus, hein, pour l'instant. Ils se disent, oh merde, nous on se baignait, c'était quand même notre activité, on aimait bien. Puis ils forcent en gros l'entrée, ils se disent, oh, on va aller se baigner quand même. Puis ils voient des machins dans l'eau. Bon, ils se disent, bah tant pis, ils se baignent quand même dedans, hein, ça va, ils ont pas peur. Puis au début, tu te dis, merde, c'est quoi, ils vont se faire absorber par le cocon ou. Enfin, tu vois, tu te dis, il va se passer quelque
chose.
Ouais,
ils vont se faire aspirer leur énergie, mais en fait, c'est l'inverse.
Ouais, et puis en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui va pas, mais dans le bon sens. Au plus ils vont se baigner là, au plus ils se sentent vivants, jeunes.
Bah, disons que ça régénère leurs cellules.
Et ça régénère leurs cellules, même ça guérit le cancer.
Ouais, c'est ça, ils ont quand même l'impression qu'ils peuvent accéder quelque part à l'immortalité, quoi.
Ouais, du coup, ils continuent à se baigner, ils se mettent d'accord pour le dire à personne.
Ouais.
Bien sûr, ça dérape, hein, toujours, chez les années 80. Et un jour, ils se font gauler, justement. Et puis, là, ils se rendent compte que, bah, c'est des extraterrestres, quoi. Et du coup, ils ont peur, et puis le mec, c'est là où c'est surprenant, parce que, je veux dire, il a quand même une tête de psychopathe, hein, l'acteur qui joue.
Brian Dennehy, tu te parles, toi.
Ouais, je veux dire, il a une tête, j'aimerais pas l'avoir en face de moi.
Ouais, c'est sûr que.
Surtout qu'il fait une tête vraiment de méchant.
Ouais.
Et il leur dit non, mais continuez à vous baigner tant que vous en parlez à personne, y a pas de problème. Et c'est là où j'ai été pris à contre-pied dans le film.
C'est
là,
sûr.
Je me suis dit merde, c'est quand qu'ils tuent les vieux ou qu'il y a la panique et tout. En fait, jamais.
Toi, tu t'attendais à une réaction hostile des extraterrestres, en fait.
Exactement.
D'exploiter un peu certainement les retraités là pour
ouais,
en faire leur énergie, quoi.
Genre ils vont absorber l'énergie des retraités, ou ils vont les tuer ou je sais
bien,
pas.
Ils vont les convertir tout simplement, peut-être.
Ouais, et puis non. Non,
non, en fait, il n'y a aucune attitude hostile, et puis c'est même bienveillant, quoi. Puis même ça finit que eux ils décident de partir un peu comme Richard Dreyfuss dans Rencontre au troisième type, quoi.
Ouais, puis ça part du fait que les petits vieux ont fait une connerie, ils en ont parlé, et il y en a un autre qui était pas d'accord, et il dit à tout le monde ouais, vous rajeunissez parce que vous allez dans la piscine. Et là, il y a tous les petits vieux de la maison de retraite qui vont dans la même piscine
en
même temps,
plus.
Et du coup, c'est là où je dis les Atlantes, les extraterrestres expérimentent la mort qu'ils connaissaient pas. Parce que là, du coup, c'est une catastrophe, il y a un cocon qui est usé, et ce qu'ils ont essayé de le taper. Pour l'ouvrir, et le truc à l'intérieur, l'extraterrestre meurt. Et ils connaissaient pas le sentiment de mort.
Ils perdent leur lumière, donc leur énergie, quoi, quelque part.
Ouais, et puis c'est la première fois qu'ils voyaient vraiment l'un des leurs mourir.
Mais ils font un peu peur, ces extraterrestres, hein, quand ils perdent leur peau, là, ils ont des yeux noirs, quasiment noirs. Et,
ouais, puis ils sont lumineux.
Ouais, ils sont lumineux, quoi.
On dirait un mélange de. Je sais pas, j'aurais envie de dire un petit gris tout brillant, mais non, parce que la tête, elle est pas.
Non, elle est pas énorme. Elle est pas disproportionnée, mais.
On dirait un vert luisant humain avec des yeux.
Ouais, c'est ça, ils font un peu peur, des fois, je trouve. Mais heureusement qu'ils sont.
Ça empêche pas que l'autre, il se l'envoie quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il y a l'actrice, là, ouais. C'est vrai que c'est un peu bizarre, d'ailleurs.
Donc, moralité de tous ces films, si vous voyez un extraterrestre, n'hésitez pas à coucher avec.
C'est quand même une relation qui est à distance, hein. Quand ils vont dans la piscine.
Ouais, mais n'hésitez pas à coucher avec un extraterrestre, apparemment c'est bien.
Apparemment c'est, ouais. Mais l'effet multiplie, on va dire.
Ouais, bah c'est ça. C'est l'effet Jack Harkness, on en reparlera pour Doctor Who.
Donc, Cocoon, très bon film. Je dirais un peu film culte quand même.
Ouais, puis ils embarquent les vieux sur leur planète, quoi.
Ouais.
En disant aux vieux, bah voilà, bah, chez nous on vit éternellement, mais voilà, là n'est pas le propos. Est-ce que ça vous dirait de devenir des ambassadeurs de votre planète pour notre planète ?
Ouais, et du coup là ils sont bouffés.
Ah ouais, j'aurais bien aimé aussi.
Non, parce qu'il y a un deuxième qui sort en 88, donc 3 ans plus tard, réalisé par Daniel Petri, avec les mêmes acteurs. Donc là, ils reviennent, les nos retraités. C'est une suite qui est inutile, qui n'a aucun intérêt.
Inutile, longue, fastidieuse, et ouais, qui te casse tout ce qu'elle avait mis en place juste avant. Moi, ça a fait un peu Star Wars 8.
Je crois que je l'ai vu une fois et je me suis dit...
C'est déjà une fois de trop.
Il faut vraiment se canaliser sur le premier film, qui se suffit à lui-même, et pas voir cette suite qui est complètement, je veux dire, insipide, quoi.
Ouais, puis normalement, ils sont censés être morts en mer, ils viennent 10 ans après, la police, ça pose pas de problème, ils retournent dans leur vie normale. Non,
bah,
mais ça...
Ça te rappelle pas un certain film du MCU, cette histoire?
Lequel alors? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont faciles comme ça.
Bah non, mais quand t'as un vide comme ça de...
Ah, le snap de Thanos.
Ouais.
Ça tombe, ils se sont juste fait snapper.
Style Spider-Man Far From Home, tu sais.
Mais là, ça va, c'est un phénomène mondial. Mais là, je veux dire, c'est quand même des gens qui ont disparu, ils reviennent et personne ne pose de questions.
Ouais. Bah ouais, mais bon, ils se sont pas trop creusé la tête pour le scénario.
Non, le scénario, c'est un extraterrestre en danger, il faut aller le sauver.
Ouais, c'est ça, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, il y a encore cette idée de poursuite, mais bon... Et on aurait pu s'en passer de cette suite, c'est ça le problème.
Ouais, non, ça, puis ça apporte rien. Ça apporte pas de neuf, ça apporte pas envie d'en savoir plus, rien du tout.
On va continuer notre petite sélection, hein, et maintenant, on va aller sur un film qu'on va pas du tout être d'accord, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu le principe du podcast. Si on était toujours d'accord, ce serait pas très, très passionnant.
On va faire notre épisode sur Star Trek Discovery.
Tout à fait, le dernier épisode de la saison 1, justement. Et puis là, je vais parler de Eden, sorti en 1987 de Jack Shoulder avec Kyle MacLachlan, donc Kyle MacLachlan qu'on a vu dans MacLachlan, qui était le héros de Dune, en fait, et qui a fait beaucoup de films avec David Lynch et Michael Nouri. Voilà, quoi, le film raconte un peu l'histoire d'un extraterrestre qui se cache de corps en corps, qui est poursuivi par justement un gentil extraterrestre, qui lui est un peu moins nocif. Et moi, je trouve que c'est une bonne série B, que pour l'époque, c'était pas mal fait. Maintenant, ça a peut-être un petit peu mal vieilli.
Oh non, pas un petit
mais
peu.
Je trouve que... Laisse-moi parler, s'il te plaît.
Oh non, je te coupe.
Il y a de l'action, il y a du rythme, et je trouve que c'est ce mélange de science-fiction et de polar, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, je comprends que tout le monde ne peut pas adhérer, mais voilà, quoi. Mais je vais te laisser la parole pour que tu puisses argumenter justement sur ce film. Qu'est-ce qui t'a pas plu, quoi, principalement, quoi.
Ah mais non, parce que là, on a bientôt fini le podcast, donc je vais pas repartir sur 3 heures. Non, blague à part, voilà, film de série B, moi j'aurais même dit téléfilm de série Z, tu vois. Dire très très stéréotypé, j'avais l'impression d'entendre des motherfuckers à chaque fois que les gens y parlaient, tu vois.
Ah ouais.
Voilà, donc les extraterrestres là-dedans, ils aiment quoi? Les belles bagnoles et les putes, hein, en gros. Puis la musique hard rock.
Bah, c'est un extraterrestre qui est déviant, ça c'est évident.
Ouais, mais moi j'écoute des fois du rap, je suis pas déviant pour autant.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, non, ça joue sur les clichés à mort, et puis c'est le flic qui sait tout, et puis le mec qui arrive, ouais, je suis du FBI, je suis venu pour tel suspect. Non, mais demande pas ses papiers, demande pas sa carte, parce qu'après il se rend compte que c'est pas un mec du FBI. Voilà.
D'accord. Je suis d'accord avec toi. Là,
après, quand t'as un mec ou t'as un doute sur lui, tu l'invites pas chez toi à regarder ta fille et ta femme.
Ouais.
Voilà. Mais boîte du FBI.
Non, mais tu mets en valeur les défauts que je peux pas contredire. Disons que les clichés, c'est propre au cinéma des années 80 pour moi.
Ah là, mais c'est cliché toi mort. Puis même dans les façons de parler. En plus, malheureusement, je l'ai vu en français, je dis malheureusement, hein, parce que les doublages sont horribles.
Ouais, ils sont pas horribles, c'est sûr.
Puis après, veut dire, l'extraterrestre, il prend le contrôle des gens. À part la prostituée, tous les gens, ils avaient des têtes de méchants, quoi.
Le transfert d'un corps à l'autre, quoi.
Ouais, ça, c'était pas... parce que moi, j'ai un mauvais souvenir de ça, mais en fait, ça va, ça passe.
Ouais, bon, c'est bien fait, parce que c'est bien crade, mais il fait qu'une fois, heureusement. Mais ce côté que l'extraterrestre en lui-même, il est caché, et que l'acteur est obligé de quelque part, de changer sa personnalité, et de dire...
Bah non.
Ah, c'était des gens qui étaient bien au départ, mais qui sont devenus mauvais, quoi.
Quand un acteur change sa personnalité, c'est que t'as vu l'acteur jouer autre chose avant. Là, il y a aucun acteur qui change sa personnalité. Parce que les acteurs, ils jouent que des méchants. Tu les vois pas gentils à un moment ou à un autre.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce défaut aussi. Je trouve pas que ça alourdit quand même tant que ça le film. Moi, ça me dérange pas, quoi. Tu vois, moi, je suis tellement habitué aux films des années 80, des clichetons et des scénarios qui sont un peu bâclés, qu'on va dire.
Scénario, j'ai pas vu où il était, moi.
Ouais, si, il y en a un petit peu, mais c'est un film d'action, il faut le prendre comme ça, c'est tout.
Puis, les erreurs, bonjour, hein. Je veux dire, au début du film, c'est quand même l'extraterrestre, entre guillemets, qui est dans un incendie de voiture.
Ouais.
Donc, du coup, il l'emmène à l'hôpital.
Ouais.
Et à la fin du film, ils le font cramer. Bah, il a déjà cramé une fois, les mecs, hein.
Là, il y a un truc que j'ai pas compris non plus, c'est que le feu n'a aucune
emprise au début, emprise et à la fin il fait cramer direct.
Ouais, enfin il faut quand même qu'il l'explose avec son laser.
Ouais, il l'explose au laser, ouais. Mais je veux dire, tu pars d'un mec qui sort d'une voiture en feu, donc la voiture est en train de cramer, il sort, il est juste brûlé. En plus, quand tu regardes, quand il sort du lit, les bras ils ont rien, les jambes ils ont rien, le dos il a rien, il y a que la tête qui est brûlée. Bon, c'est Deadpool le mec. Et après, à la fin, l'autre il envoie un lance-flamme et hop, t'es brûlé de A à Z, le truc.
Ouais, ça, c'est parce que là, il fait du lance-flamme, mais il y a une contradiction aussi dans ce que tu dis, évidemment. Plus j'y pense, plus on... Après, je soutiens quand même que c'est divertissant.
Après,
mais bon,
si
c'est
tu
pas
prends
grave.
L'atomiseur, ça peut atomiser que l'extraterrestre.
Ouais, c'est ça, le truc. Ouais.
Mais ils arrivent quand même à atomiser un mur, donc l'extraterrestre, c'est la même composition qu'un mur. Hein.
Mais je pense que l'extraterrestre, il y a aussi des propriétés un peu régénératrices, quand même, quelque part, quoi.
Bah, c'est... Bon, je vais comparer au Goa'uld, hein, c'est-à-dire que en phase terminale d'un
c'est
cancer,
un parasite, quoi.
Le deuxième,
c'est une espèce de parasite,
le deuxième mécréant, il est en phase terminale d'un cancer, il arrive à le maintenir jusqu'au bout, quoi. Une marionnette, il marionnettise les gens, en fait.
Ouais, c'est ça le hidden, quoi. C'est le...
Après,
c'est l'extraterrestre
le fait que...
qui est une espèce de parasite, finalement.
Après, le fait que ça peut être n'importe qui, ça, c'est vraiment bien.
Ouais.
Bon, c'est juste que tu vois arriver le MacGuffin dès le début, quand il arrive au marchand d'armes et qu'il voit le gouverneur, c'est bon. Enfin, voilà. Lui, il va aller choper le gouverneur.
C'est ça. Il veut arriver vraiment à la tête de l'État, quoi. Même au président, quoi.
D'ailleurs, il est arrivé à ses fins, hein. Ça a donné Trump.
Il y a aussi l'histoire avec le chien. Il passe d'un chien à un humain, à un moment.
Ouais, d'un humain à un chien. Ouais. Voilà.
Donc, il y a un peu métamorphe, parce que pour entrer.
Non, pas métamorphe, c'est qu'il va où il veut.
Ouais, mais je veux dire, il peut changer sa forme comme il veut, quoi.
Non, il rentre dans le chien, il change pas sa forme. C'est-à-dire qu'il rentre dans le chien.
Ouais, mais il a quand même la possibilité de se modeler au niveau des bras. On le voit à un moment, il y a une espèce de pic qui sort du bras, là.
De tentacule. Il y a un tentacule qui dépasse.
Donc, il prend pas que le contrôle du cerveau. À mon avis, il y a des ramifications dans le corps, quoi.
Ouais, non, ce que je dis, c'est l'effet marionnette.
Ouais.
C'est un croisement entre, à dire, un alien du film Alien, mais en format petit alien, et puis une méduse.
Ouais, c'est un truc de cradingue, alors que l'autre, cette histoire de... Bah, en fait, le flic, le deuxième flic, le flic humain, il meurt, et l'extraterrestre lui donne, en fait, sa force vitale pour qu'il puisse survivre. Donc lui, il meurt aussi, quoi.
Ouais.
C'est pour ça que je l'ai classé dans la petite sélection. C'est un peu un choix personnel.
Bon,
c'est parce que c'est un extraterrestre qui est bienveillant quand même.
T'as un belliqueux et est quand même là pour... On va dire le deuxième extraterrestre de lumière, il est là pour rendre des comptes. Hein. Il est là pour péter la gueule de l'autre.
C'est une espèce de police, ouais.
Ouais, c'est... Ouais, voilà. Puis, bon, à la fin, il s'attache. Voilà, il suffit qu'il boit un coup chez quelqu'un et il s'attache vite, lui. Hein.
Ouais. Bon, t'aimes pas ce film, c'est tout, quoi. Mais je vais pas revenir sur tout ce que... Il y a beaucoup de contradictions, je suis d'accord avec toi.
Ah, film des années 80, c'est normal.
Pour moi, il n'y a pas de quoi le rabaisser une série Z, parce que moi je trouve que niveau mise en scène, tout ça, interprétation, bon, ça passe encore, quoi, tu vois.
Ah non, interprétation, elle est plus que douteuse, ça fait vraiment je suis le flic, je suis bien, voilà, c'est moi qui commande, blablabla. Et puis là, t'as le black qui arrive et fait regardez, moi j'ai un lance-flamme. Non, ça va, c'est bon. Ah, je vais me faire une pute, vas-y. Et puis t'as la pute qui baise l'autre et tu dis ah, ça y est, je suis dans les années 80. T'as dit bon, bah c'est bon, t'as, tu me donnes le film, tu me le balances comme ça, tu montes juste les personnages sans montrer les véhicules, les trucs autour, je le date. Hein. Ouais, années 80.
Ah, c'est ce que je disais, c'est que peut-être qu'il y a mal vieilli, peut-être que. Je l'ai pas revu récemment.
Bah, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est le voir en VO pour savoir si les acteurs sont aussi mauvais en VO qu'en VF. Parce qu'il est très mal doublé, faut dire ce qu'il faut.
Ouais.
Je sais pas s'il avait le budget doublable, jeu conséquent, mais il y a même un moment où
c'est un film à petit budget, de toute façon.
Il y a quand même 2-3 personnages qui sont doublés par la même personne, ça commence à s'entendre.
Ouais.
Et je voudrais, en VO, ça pourrait peut-être mieux rendre. Bah, il est dur à trouver.
Il était quand même sorti au cinéma, c'est ça le truc.
Bah, il est sorti au cinéma, en DVD on le trouve encore.
Ouais.
Et puis, sur les plateformes de VOD, on le trouve aussi.
C'est quoi sans VOD? Donc, voilà quoi, bah, Eden, c'est rien par rapport aux deux, qui est quand même une immonde bouse, parce que c'est vraiment mauvais. Quoi, là, c'est l'extraterrestre, c'est une espèce de gros scorpion qui rentre dans la bouche, tu te dis c'est pas possible qu'il puisse s'insérer. Je veux dire, une bestiole comme ça, il te déchire la gorge, il t'explose la tronche, quoi.
Ouais,
le problème du 2, le gros problème, c'est que t'as un film d'une heure et demie, mais t'as déjà un quart d'heure de résumé du premier film, tu vois. Ils reprennent des scènes du premier film,
le recyclage, hein.
Ouais, donc c'est quand même feignant, quoi.
Ça veut dire encore moins de budget.
Ouais, c'est ça. C'est
hyper... s'ils en ont fait un 2, c'est que le 1 a dû être bien regardé.
Oui, oui, non, je te dis, c'est un film qui était apprécié. Le 2, là, il est sorti en DTV. C'était une période où c'était le DTV, c'était les années 90. Donc c'était plus des productions vidéo, hein, destinées à location. Ils n'allaient pas sortir ça au cinéma. De toute façon, ça ne ferait pas d'entrée. Mais c'est juste en plus, ça n'a pas beaucoup de lien avec le 2, à part que le flic qui survit à la fin. Bon, il est obligé de traquer un autre extraterrestre qui est arrivé de je ne sais où, qui cette fois a pondu des œufs un peu à la Alien, parce que s'il y a beaucoup de références à Alien le retour, si tu veux. C'est encore plus cradin que le premier, parce qu'il faut plus de cradin, il faut plus de
surenchère.
Hein. Ouais.
Si t'as plus rien à raconter, tu fais de la surenchère.
Mais c'est vrai qu'au niveau scénario, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Voilà, que j'ai pas envie d'aller sur le 2, mais bon, moi je pense que bon, toi tu recommandes pas, mais moi je pense que Hidden, il faut le voir au moins une fois, quoi, pour faire son opinion, c'est ça.
On va essayer de le voir en VO, hein, je pense que ça sera peut-être
mieux. Ah, peut-être, ouais, peut-être.
C'est vraiment mal doublé.
Peut-être hein. Que la VF dessert mal en plus le film. Donc voilà, quoi, Hidden, et puis on va passer d'un petit film de série B à un gros chef-d'œuvre, hein, Abyss de James Cameron en 1989.
Ah, rien à voir, c'est le jour et la nuit.
Ah, déjà, rien à voir. Déjà, c'est pas le même thème, donc là on est plus dans les fonds océaniques, l'extraterrestre, on ne sait pas si c'est vraiment un extraterrestre, est-ce que ce serait pas plutôt un intraterrestre?
Puis on sait pas, hein, il arrive tard, hein, le phénomène, ouais. Entre guillemets, dans le film, il arrive tard.
Bah, le film.
Ça te laisse bien le temps de prendre conscience des personnages, ouais. Et ça c'est bien, t'as le temps de t'attacher aux personnages.
Le film fait 2h, la version longue fait 2h50, la version normale fait déjà 2h30, et je crois que le premier extraterrestre, tu le vois vers 1h45, quelque chose comme ça.
Ouais, puis regardez pas la version courte, parce qu'il y a beaucoup de passages très importants dans la version.
Très important, ouais, parce qu'il faut en parler. Bon, on rappelle sommairement l'histoire, c'est qu'il y a une plateforme de forage, une sous-marine, et puis il y a un sous-marin qui est justement perdu
un sous-marin qui s'est fait défoncer, entre guillemets, parce qu'on sait pas si c'est un accident, on sait pas si c'est une guerre, on sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y a un sous-marin à récupérer, entre guillemets, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, et qu'il y a que des professionnels, ça fait penser à Armageddon, en fait.
Ouais.
Ça me fait que des professionnels qui peuvent aller le récupérer, parce qu'ils ont qui ont le matériel dans le coin.
Ouais, et puis voilà, quoi. Puis donc, ils dépêchent des militaires. Alors là, j'ai pas signé le casting, mais t'as Ed Harris, déjà, en tête d'affiche. Lui, il bousille tout, de toute façon, quand il est dans un film. Il y a Marie-Elisabeth Mastrantonio qui joue sa femme, qui est en instant de divorce, apparemment, au début. Et puis t'as Michael Biehn. Alors Michael Biehn, tout le monde ou presque le connaît, vu que c'était lui qui faisait Kyle Reese dans Terminator, dans le premier Terminator par exemple. On l'a vu aussi dans Aliens. Et là, Michael Biehn, lui, il est un petit peu le militaire qui est pas bien dans sa tête, quoi. Il est un peu parano, quoi.
Ce qui est bien, non, c'est justement parce qu'il souffre de l'ivresse des profondeurs.
C'est ça.
Et ouais, il devient maboule. Ah, oui. Justement, parce que s'ils ont bien réussi à tourner le truc, parce que normalement un militaire tourne jamais de veste. Hein. C'est-à-dire que normalement ses collègues doivent tenir avec lui.
C'est ça.
Puis à un moment, il se retourne complètement contre lui parce qu'il se dit merde, il est taré.
Il y a complètement, il se fait des entailles. Je sais pas si tu te souviens.
Bah ouais, c'est pour ça qu'il est bien ce film, parce qu'ils arrivent à t'expliquer que le salaud, c'est un salaud parce qu'il y a déraillé dans sa tête.
Il est pas bien, quoi. Ouais,
il y a déraillé.
Ouais, c'est la dérivée. Et puis lui, ce qu'il veut faire, c'est carrément foutre une bombe nucléaire sur la cité sous-marine.
Ouais, ils ont eu ordre de récupérer la bombe nucléaire. Donc jusque-là, ça s'est confirmé dans le film. Mais après, le fait que lui, il la balance sur les autres, c'est comme à un moment, il dit voilà, on est tout seul, on a plus de commandement, le câble est rompu, machin. Moi, je prends la décision, entre guillemets, on va leur péter la gueule, quoi.
Ouais,
c'est pas quoi il a à faire, c'est pas ce que c'est.
Il est hyper belliqueux, quoi.
Hyper belliqueux. Donc les trucs, par accident, ils ont réussi à dégommer un sous-marin, ils ont pas fait exprès, ils sont juste passés à côté trop vite.
C'est vraiment un accident, quoi.
Ouais, et puis, vas-y, on va leur péter la gueule. Et là, c'est là, tu te dis, il prend ça de son propre chef, et t'arrives à te dire, c'est parce qu'il y a l'ivresse des profondeurs, il est plus dans sa tête, quoi.
Ah, c'est vrai qu'il a pété un câble, hein, direct.
Ouais, il a pété un câble, exactement. C'est pas le méchant qui est méchant pour le plaisir d'être méchant.
Ouais, c'est ça, il est pas sadique, quoi. Il est pas sadique avec les autres.
Bah, il devient méchant, sadique, mais parce que tu vois, il y a des problèmes. Puis il le joue bien, le problème psychologique.
Il est persuadé, quoi.
Je vois le bonhomme qui joue, j'y crois à fond.
Ouais, c'est un bon acteur, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de rôles non plus. Ouais, donc Michael Biehn, voilà, quoi. Très bien. Qui personnifie bien le mec hyper paranoïaque, quoi. C'est ça le truc, hein. Et qui voit cette espèce d'ennemi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est d'ailleurs.
Ouais, une réaction face à l'inconnu.
C'est vraiment. En plus, j'ai l'impression que de la surface, il y a une espèce de tension, un peu une guerre froide, tu sais, entre des pays, il y a une espèce de guerre qui se prépare, quoi.
Et quand le sous-marin, il se fait éclater, il pense direct aux Russes, hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça le truc, quoi.
Il dit que, c'est ça. Que...
Contexte de guerre froide.
Donc, à partir du moment où on a la partie extraterrestre, c'est, déjà, il y a cette espèce de flaque d'eau qui se transforme en visage, là,
ouais,
tu sais.
Ouais, super bien fait.
Enfin, c'est bien fait, ça, hein. C'est d'ailleurs l'un des premiers morphings du cinéma dans l'histoire du cinéma, hein, c'est ILM, donc la maison de Lucas, encore une fois, mais là, c'est Industrial Light and Magic, donc ce sont des expérimentations. Hein, d'ailleurs, ça a servi de base pour l'animation du T-1000 dans Terminator 2, si tu te souviens bien. Donc ça, c'est la première manifestation, et c'est là qu'il commence un petit peu à s'inquiéter, le colonel.
Il pète un peu direct après.
Là, il se rend compte qu'il y a l'ennemi, quoi.
Ouais, puis comme le truc, qui est venu regarder la bombe pour en voir plus. Un petit peu. Ouais. Là, il s'est dit, ouais, je vais aller leur péter.
C'est ça.
Là, il faut faire quelque chose. Et puis, c'est là, en plus, ils ont coupé le contact avec la surface à cause de la tempête. Quoi.
C'est ça. Il y a la tempête au-dessus, ouais. Mais en fait, c'est un peu à huis clos quand tu.
Ah, c'est carrément à huis clos.
Parce qu'ils sont enfermés dans la station sous-marine. Et il n'y a plus de contact avec l'extérieur du tout, quoi.
Ouais. Et là, du coup, ils sortent plus d'ordre, rien du tout.
Ouais, ouais. Et puis, donc, le seul contact qu'ils ont, c'est avec cette entité. Et t'apprends vite qu'ils peuvent maîtriser l'élément liquide, quoi. C'est leur pouvoir, c'est leur faculté. Et plus le film avance, j'ai envie de dire, plus on descend en profondeur et plus on en apprend sur ces êtres, quoi. Lui, il va quand même, le personnage d'Edaris, il va se sacrifier, justement, parce que il doit aller avec une super combinaison, d'ailleurs.
Ouais, puis après une course-poursuite entre petits sous-marins, là, qui était quand même bien faite.
Ouais, c'est ça, les batiscaps, on va dire, ouais.
Ouais.
Donc, finalement, il arrive quand même à empêcher le militaire complètement taré de déposer la bombe, de larguer la bombe.
Non, il arrive à la larguer, justement.
Ouais, donc il la largue juste avant que sur une corniche.
Il la largue pas, c'est le robot qui est fait pour aller directement à un endroit précis de la corniche, quoi. Donc, du coup, après.
Qui a été programmé, quoi.
Ouais, qui a été programmé. Mmh. Puis, le mec, il se fait défoncer par la pression, ça.
Ouais,
la
ouais,
scène,
alors là, ça, c'est la, cette scène.
La scène est terrible.
C'est vrai que là, quelle fin aussi, là. Hein.
Ouais.
Ce que je voulais dire, c'est
Là, dans ce passage-là, c'est très important, c'est que sa femme, elle a failli mourir.
Aussi.
Ouais, enfin, son ex-femme, enfin, son love interest, on va dire.
Ouais, ouais.
A failli crever, et c'est là, justement, où il y a une relation entre eux qui va jouer sur l'avenir de la planète, en fait.
C'est ça, il y a la relation avec sa femme aussi, qui est bien développée aussi dans le film. Hein.
Ouais.
Moi, je voulais parler de cette scène où il descend en combinaison, et que, justement, il sait qu'il pourra pas...
Ouais, il sait, il le dit à un moment.
Mais il est quand même dans la notion de sacrifice, toi, tu vois.
Ouais, il s'est dit... là, c'est là, justement, tu commences à voir qu'à l'extérieur, il y a des choses quand même graves qui se passent.
Mais
lui, il en sait rien.
Mais
eux, ils en savent rien.
Lui, il est persuadé de mourir, quoi.
Ouais.
Tu vois, il y a cette espèce d'ange, parce que c'est une espèce d'ange, hein, quand il arrive avec une espèce de papillon lumineux.
Entre une rémanta, un papillon, un ange. Ouais.
C'est super beau, c'est impressionnant, quoi, à l'écran. T'as cet être qui l'amène, justement, dans la cité aquatique. Cette cité aquatique.
Après qu'il ait désamorcé la bombe, quoi.
Ouais, justement.
Puis après qu'il dit, justement, c'est un voyage sans retour.
Ouais, c'est ça.
C'est bon, il me reste 5 minutes, je vais mourir là, t'inquiète pas.
Mais il est persuadé de mourir, mais il y a cette espèce d'ange, et quelque part, cette espèce de mysticisme dans l'image, qui l'amène, justement, dans cette sous-marine. Et justement, eux, ils arrivent à l'amener dans une pièce où ils arrivent à vider l'eau, justement, pour qu'ils puissent respirer.
Bah, manipulation de l'eau.
Ouais.
Dans l'eau, il y a de l'oxygène.
C'est ça. Donc, on voit qu'ils ont quand même une maîtrise assez incroyable.
C'est leur technologie.
Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est basé sur tout. On peut pas savoir à ce stade-là si ce sont ils sont venus d'ailleurs ou si ce sont des entités qui existaient depuis des millions d'années.
Alors,
tu vois.
Ça, on sait pas. Jusqu'à la fin du film.
On saura jamais, quoi.
Tu sauras jamais. Sauf dans Abyss 2, peut-être. Mais je suis pressé de le voir.
Il n'y a pas d'Abyss 2. Donc, moi, je parle d'extraterrestres, mais pour moi, c'est on est entre extraterrestres et intraterrestres, on va dire. Hein. Et à partir de là, il y a ce dialogue, mais c'est là que ça diffère. Il y a une divergence dans la version courte et longue. C'est-à-dire que dans la version courte, on passe directement au message, l'extraterrestre parle avec Edaris, le personnage d'Edaris, et il lui dit...
Il lui montre des images.
Ouais, non, pas encore. Ils n'ont pas des images, mais dans la version courte, hein, je vais prendre part. Dans la version courte, ça passe directement au message, je savais que ne devais pas revenir et que...
C'est leur moyen de communiquer, ça sur le mur d'eau.
Ouais, il met ça sur le mur d'eau. Donc, t'as ce message qui dit les valeurs humaines, donc la valeur de l'amour et du sacrifice de soi. Et là, je vais dire, c'est un peu avant ce passage-là qu'il y a une réinsertion d'une demi-heure de près de scène qui font que le point de vue de l'extraterrestre, notre point de vue à nous, de spectateurs, il change complètement par rapport aux entités qui sont dans cette cité. Quoi, tu
vois, parce qu'il montre, normalement d'abord les images de guerre, les images du Reich, donc ils ont accès à notre technologie pour voir. Puis après, il montre le fait qu'on est en train de faire des tsunamis de plusieurs kilomètres d'eau, les mecs. On va tous vous tuer.
On va tous vous noyer, quoi.
On va tous vous noyer. Et voilà.
Alors on voit ces raz de marée qui s'élèvent, mais
à des kilomètres, kilomètres.
On voit
quand tu vois le Golden Gate, qui est
le Golden Gate,
on voit,
il y a une scène où on voit au loin la vague qui s'élève par rapport à la statue de la Liberté au premier plan,
ouais.
Et puis t'as la vague qui commence à arriver sur New York, et même t'as une scène en Russie où ils commencent à s'élever, mais carrément ils bougent carrément la lune, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont plongés dans les ténèbres. Puis t'as cette scène qui est en pleine ville où ils montent au-dessus des buildings. building, quoi, tu vois, des trucs. Et puis t'as cette principale scène, c'est sur la plage de Malibu, il me semble, quand la vague arrive progressivement pour noyer en fait toute la plage et tous les gens courent. Et c'est là que l'eau s'arrête. Mais elle se gèle complètement.
Ouais, elle est figée.
Ouais, elle est figée.
Ils maîtrisent l'eau comme pire que Moïse, quoi.
Ils voulaient montrer qu'ils ont un pouvoir assez incroyable et que ils peuvent. Qui lance un peu un avertissement à l'humanité en disant « Vous arrêtez vos conneries avec le nucléaire », ce qui rejoint un petit peu le message du jour où la Terre s'arrêta.
Ouais, et où le message passe aussi, voilà.
Et après, on voit que les vagues commencent à reculer.
Ouais, et puis c'est quand les vagues commencent à reculer et qu'ils se demandent pourquoi, c'est là où il y a les messages dit « Chérie, garde ta culotte » ou des trucs comme ça, et qu'ils ont compris qu'on était peut-être pas tous que des connards.
Non, non. Bah non, ils ont compris qu'il y a des valeurs humaines, qu'il y a des gens bien et qu'il ne faut pas tuer tout le monde.
Le message, voilà, est mondial, fort, arrêtez vos conneries parce que vous jouez avec des forces qui vous dépassent.
Ouais. Vous jouez avec le... Je pense que
voilà, avec l'eau, du coup.
Le nucléaire. Mais là, c'est vrai que, comme on sait que la planète est composée à 80% de...
70%.
Ouais, 70% d'eau. Ça irait vite de noyer les continents, hein, quand même. Ça irait même très vite. Mais là, on a encore une fois l'extraterrestre qui est amical, mais qui est quand même... qui est bienveillant, mais qui avertit, quoi, tu vois.
Ouais, un peu... comme tu t'engueulerais un enfant qui a fait une connerie, quoi.
C'est ça.
Tu lui dis, t'as fait ça, je sais, regarde ce que moi je peux faire pire que toi, mais je le ferai pas parce que ce serait peut-être temps que tu commences à changer.
Tu manques de maturité, quoi.
Tu manques de maturité.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu le message, et c'est pour ça que cette version longue, elle a beaucoup plus d'impact.
Ouais, clairement. Faut voir que la version longue, parce que la version courte, elle est bien, hein, y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir un message un peu plus
profond, on va dire,
profond, spirituel,
qui va
vous faire réfléchir,
ouais,
faut la version longue.
Ouais. Je crois que c'est l'une des rares versions longues, parce qu'il y a beaucoup de versions longues qui servent à rien.
Puis il y a beaucoup de versions longues où tu te fais chier, celle-là.
Ouais. Non, celle-là, vraiment, les apports, ils sont vraiment importants.
Ouais, les 3 heures, enfin, à peine 3 heures, tu les vois pas passer.
Non,
du début
c'est
à la fin, tu
non,
les vois
non,
pas
mais
passer.
Abyss, c'est un grand film. C'est Cameron, hein. De toute façon, il y a très peu de films qui sont des navets, hein, Cameron. Il y a son premier film Piranha 2 qui est pas bon, mais après non, on a quand même une succession de films. On a Terminator, Aliens, Abyss, on a True Lies, même si c'est un peu plus léger.
C'est un remake.
Il y a Titanic.
Titanic, j'ai pas vu.
Il y a Avatar. Toi, t'aimes bien Avatar, par exemple.
Petite anecdote sur Titanic, je me suis fait jeter de la salle.
Ah bon?
Ouais, parce que je ronflais.
Ah, le mec, il dort pendant Titanic, quoi. Et t'as dormi pendant que le bateau, il coulait, ou quoi?
Je me suis endormi, et à un moment, je me suis réveillé en sursaut, parce qu'en fait, il y a la vaisselle qui tombait, ça faisait trop de bruit. Voilà.
Et t'as pas gueulé, t'as dit, faut arrêter de faire du bruit, là.
Bah ouais, c'est ce que je veux. Là, ils m'ont demandé de sortir. Non, et ils m'ont remboursé la place.
Tu devais être fatigué, quoi.
Ah, c'était nul. J'étais pas dans le mood, hein, je me suis endormi. Si je m'endors,
C'est nul, faut pas dire ça, quoi.
C'est pour ça que j'achète à manger, maintenant.
Non, Titanic, c'est un grand film, c'est pas pour tout le monde. Mais niveau mise en scène, tout ça, c'est grandiose. Puis c'est Cameron, quoi. Mais là, Cameron, il traîne pour ses versions. Et apparemment, il a fait 4 suites à Avatar. Et ça fait quand même 10 ans. 2009, je crois, le premier Avatar, un truc comme ça.
Ouais, bien, il y a plus que 10 ans, le premier.
Ouais, il y a plus que 10 ans.
Ouais, qui était bien, mais c'était une belle fable écologique. Moi, j'aime bien ça,
ouais.
Fable écologique.
Ouais, moi, j'ai pas trop accroché.
Moi, j'ai trouvé le rapport entre les colons, les conquistadors et les Indiens qui était très bien.
Ouais, c'est la réactualisation de Pocahontas, quoi, quelque part.
Ouais, Pocahontas, attention, hein. T'as Pocahontas, la vraie histoire qui est arrivée, hein, qu'elle a quand même fini violée à la cour.
Ouais.
Et t'as Pocahontas Disney, hein, où elle se marie avec un blanc. Hein.
Ouais.
C'est pas pareil.
Le
hein,
côté un peu féerique de Pocahontas.
La vraie Pocahontas, elle a morflé à mort. Hein.
Ah ouais.
Elle s'est fait violer, tuer, tout. Hein.
Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Je connaissais pas la vraie histoire. Mais
ouais,
bon,
Disney, faut se méfier. Ils ont tendance à enjoliver.
On va foutre des saloperies, tu sais, des fois, mais bon. Non, pour revenir à Abyss, ouais, c'est un chef-d'œuvre pour moi.
C'est un très bon film.
Très bon film.
À la hauteur de Rencontre du Troisième.
Ouais, c'est sûr.
Qui fait réfléchir en plus.
Ouais.
Tu peux le prendre comme un divertissement, un blockbuster, et tu peux le prendre comme un film qui va te faire réfléchir.
Je crois que, si on faisait un top 5, quoi, tu vois, il serait facilement dedans, quoi.
Ah, mais pas Eden en premier. Hein.
Bah, Eden, pourquoi pas, j'ai envie de troller. Bon. Non, bon allez. Abyss, excellent, quoi.
Ouais, faut le voir, hein. Si vous l'avez pas vu, vous ratez quelque chose.
On va passer en 1997 avec Contact de Robert Zemeckis, justement, on en parlait.
Confondez pas avec le film avec Van Damme Full Contact, hein. Ça n'a rien à voir.
Donc pas d'art martiaux, hein.
Pardon, pas d'art martiaux.
Ici, il s'agit juste d'un message qui est envoyé d'une étoile jusqu'à la Terre, apparemment, si je me souviens bien.
Ouais, et puis c'est Adolf Hitler. Le message, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques du nazisme, enfin pas du nazisme, la cérémonie d'ouverture d'Adolf Hitler pour les Jeux Olympiques de 39.
D'accord.
39, 38, 35, enfin dans ces eaux-là, des années 30.
Ah, 35 ?
Ouais, je dirais plutôt 35. Ouais.
C'est là où...
Ouais, non, 39, c'était déjà la guerre.
C'est pas cette année où il y a Jesse Owens qui a gagné la médaille, je sais pas quoi.
Ouais, qui a pas voulu saluer parce qu'il était black.
Ouais, donc il y a cette histoire-là, mais le thème c'est... Il y a beaucoup de...
Opposition de la religion et de la science.
Ouais, beaucoup de mystique aussi, c'est parce que bon, t'as Jodie Foster qui est la scientifique, et puis t'as Matthew McConaughey qui est lui le plus
le
pendant spirituel.
Et, le prêtre 2.0.
Ouais. Puis t'as beaucoup d'attracteurs, hein, t'as James Wood, Tom Skerritt, enfin bref, je vais pas tous les citer. T'as Zemeckis à la caméra, Zemeckis qui faisait encore des films en ce temps-là, parce que maintenant, j'ai pas l'impression que ça marche autant que ça marchait dans les années 80-90. Mais Contact, donc, il reçoit un signal justement pour construire un vaisseau, si je me souviens.
Bah, au début, ils reçoivent un signal, puis comme par hasard, au moment où ils sont en train d'arrêter de chercher, parce qu'ils n'ont plus de sous, ils reçoivent un signal, puis c'est Hitler, alors ouais, ça fait le tour, voilà, on a reçu ça comme message, qu'est-ce qu'il faut en déduire? En fait, il fallait juste en déduire que c'était le premier message qu'on a envoyé à pleine puissance, parce que l'Allemagne, elle voulait montrer, l'Allemagne nazie voulait montrer sa supériorité technologique, alors ils avaient bombardé d'ondes hertziennes pour dire ça va aller sur toute la planète.
Ouais, c'était un écho, en fait.
Et après, ils se rendent compte que dans le message, il y a un deuxième message, c'est-à-dire qu'ils ont mis des plans.
Il est crypté, ouais.
Ouais, crypté.
Et ils construisent ce vaisseau. Donc, il y a une première expérience où elle n'est pas retenue, en fait. Mais c'est catastrophique parce qu'il y a des extrémistes...
Extrémistes religieux.
Ouais.
Là, c'est vraiment l'opposition de la science et de la religion.
Ça, c'est qui font échouer l'expérience. Donc, ça pète de tous les côtés. C'est vrai que c'est assez impressionnant, cette scène.
Ouais, on dirait un peu l'explosion de la Statue de la Liberté dans X-Men. Tu vois, ça fait à peu près la même chose.
Ouais. Mais t'as cette espèce de vaisseau qui tourne parce qu'elle est au milieu, la personne est au milieu. Donc, t'as des anneaux. Ça fait penser à un anneau, des anneaux, c'est un principe assez connu, je sais plus lequel. Ça tourne pour créer une espèce de boule qui en fait ouvre un passage.
Coup de verre.
Ouais. Et donc elle a réussi quand même à y aller, mais elle se retrouve dans. J'ai pas l'impression qu'elle se retrouve sur notre planète, plutôt vers une espèce de réalité parallèle.
Bah, je sais pas, elle traverse des trous de verre, des trucs comme ça.
Ouais, puis elle arrive sur une espèce de plage avec des drôles de coups, des couleurs assez vives.
Et bah justement, on sait pas si elle a fait un voyage extraplanétaire.
Ou un voyage intérieur.
Ou un voyage intérieur. Après, on a un petit indice sur la fin.
C'est ça.
Mais voilà, donc tu sais pas si elle a vécu en gros une expérience NDE, une near dead experience, de mort imminente, si elle a vécu une expérience mystique ou si elle a vécu vraiment un truc scientifique.
On est entre la lisière des trois, en fait.
T'es à la lisière des trois.
Parce que le truc qui fait, c'est que s'il y a vraiment contact extraterrestre, en fait, il se serait incarné dans son
subconscient.
Sous la forme de son père, parce qu'il vient le voir, parce qu'il y a une relation qui est très forte avec son père depuis le début du film, et du fait que cette passion, elle vient aussi de son père, la passion des étoiles, l'astronomie. Et c'est vrai qu'il y a ce passage qui je sais pas, c'est vrai que tu t'interroges aussi à ce niveau-là.
Mais même jusqu'à la fin, tu t'interroges toujours parce que même la fin, quand ils disent que ça peut être une arnaque du scientifique, à la fin ils disent c'est peut-être le milliardaire qui vous a arnaqué.
Ouais.
Même ça, c'est possible. Mmh. Et elle est obligée de dire ouais, c'est possible. Sauf le petit élément de la fin.
Bah ouais, l'élément, si je me souviens bien, c'est l'histoire de l'enregistrement, c'est ça?
Bah elle a enregistré que des parasites.
Ouais.
Le temps que la boule tombe, mais elle a enregistré 18 heures de parasites en une seconde.
18 heures, oui.
Donc c'est ça qu'ils se disent, merde, il y a dû avoir quelque chose quand même.
Mais il y aura toujours le doute dans l'esprit.
Il y aura toujours le doute.
De l'esprit du spectateur quand même.
L'esprit du spectateur, il y aura toujours le doute.
Il n'y a rien de défini, c'est un peu comme du Kubrick, quoi, tu vois. Il y a un côté un peu kubrickien à la fin quand
C'est ça, c'est le côté. Ouais. Et de toute façon, elle a tout vécu. Elle a vécu une NDE, elle a vécu le truc mystique et elle a vécu le scientifique. En fait, quand tu regardes la fin du film, c'est qu'elle a tout vécu. Elle a vécu ces trois trucs-là.
Oui, c'est vrai que je n'avais pas exploré tous ces versants, mais ce que tu dis est très juste. Et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un film qui a assez passionnant. Hein.
Il est passionnant. La résolution des problèmes d'une intelligence face à une autre, elle est très passionnante.
Ouais.
Après, c'est un peu dommage parce que le milliardaire, ça devient le Deus Ex Machina, c'est lui qui trouve les solutions. Quoi.
Ouais, c'est le gars qui est en orbite, là, c'est ça?
Ouais, à un moment, il va en orbite et il meurt dans l'espace. Hein, en fait,
en plus,
Et en fait, lui, si on comprend bien, son but, c'est qu'il veut laisser une trace.
Ouais.
Il est prêt à mourir, mais il y a plein de pognon et il se dit, c'est lui qui trouve les fonds pour qu'elle continue.
C'est un peu le Bill Gates du coin, lui, non?
Ouais, c'est un peu le Musk Gates.
Ouais,
le Musk Gates.
Elon Musk, ouais, le mec qui va aller sur Mars.
Et puis c'est lui qui trouve le problème. Il dit mais faut pas penser en deux ou trois dimensions, faut penser en plein de dimensions. Et c'est lui qui trouve que c'est une information cubique, etc.
Ouais, un film qui fait beaucoup réfléchir aussi sur l'être humain, sur sa dimension métaphysique surtout. Il y a plein de questions. questions qui
plein. T'as la, sont posées, voilà, t'as la dimension, ouais, métaphysique, c'est quoi l'humain, t'as, après t'as la dimension, c'est quoi le divin, est-ce que tes croyances faut les maintenir, est-ce que tu dois lutter contre tes croyances, est-ce que tu dois lutter contre ton esprit scientifique, et en fait la seule qui arrive à dire à être accomplie dans le film, c'est celle qui a tout vécu, les trois.
Bah ouais, t'as toujours cette opposition entre rationalité et irrationalité, tu vois.
Bah là elle a vécu et de l'irrationnel irrationnel, et du coup elle se pose des propres questions face à des remarques très judicieuses. Ouais, vous avez pas de preuves, ouais mais c'est possible que, et à chaque fois le truc c'est ouais mais c'est possible que ce soit ça, ah ouais c'est vrai, comme c'est une scientifique elle a toutes les options, mais au fond d'elle elle sait qu'elle a vécu quelque chose de fort.
Ouais, c'est un peu pour ça que le prêtre, enfin le religieux à la fin il la soutient, parce que il dit qu'il la croit, parce que là où personne ne la croit,
à partir
du
moment où elle est devenue sincère avec elle, lui il la croit.
Donc elle, comme elle a la foi, lui il a la foi aussi, quoi.
Mais tu vois, elle a la foi en ses propres convictions. Elle rejoint pas son côté non plus, c'est ça qui est bien. Après elle reste pas bornée à ses convictions, et ça j'aime bien aimer dans le film.
Non, c'est un bon film, on peut le recommander, je pense,
Ouais, il fait réfléchir, et ça au moins cet avantage là
puis c'est vachement bien réalisé, c'est super bien interprété. Moi j'aime bien beaucoup Jodie Foster en général, dans ses rôles, est très très bien. Jodie Foster, est-ce qu'il faut rappeler Le silence des agneaux ou d'autres films par exemple?
Bah tu viens de le faire, donc ça va.
Il n'y a pas que ça, mais bon. Enfin, on va enchaîner sur notre dernier film. Là, c'est un peu plus léger, hein. C'est Paul, l'extraterrestre trolleur de l'univers.
Ouais, c'est un peu mon alter ego en petit gris.
Donc, Paul, réalisé par Greg Mottola en 2011, avec le duo de la trilogie Cornetto, c'est-à-dire Simon Pegg et Nick Frost. Je sais pas si tu as vu les Shaun of the Dead ou tout ça. Là,
Non, je les ai pas vus.
Non, mais tu les connais quand même, de nom.
Bah, de nom, ouais. C'est quand même dans la pop culture.
Ouais. Donc Simon Pegg, qui joue aussi Scotty dans le nouveau Star Trek, par exemple. Bah, de film, c'est un peu un pastiche de la zone 51, quoi. Un extraterrestre qui s'évade de la zone 51, qui arrête pas de troller. Lui, il connaît bien le comportement humain, par cœur.
Ouais,
hein.
Voilà, c'est un peu le beauf de l'espace. Ça fait, il s'est crashé en 51, et puis, Roswell, c'était plus, c'était la zone 51, c'était plus en 39.
47, ouais.
Ouais, je sais plus, j'y étais pas. Officiellement. Et après, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, donc il s'évade, et puis il arrive encore une fois dans un road movie, puis avec des situations.
Puis là, t'as un maximum de fine boy, parce que t'as plein de références sur des films.
T'as que des références.
À un moment, ils vont.
Avec Sigourney Weaver à la fin, c'est top. Enfin, je m'attendais à tout sauf à elle, quoi.
Non, mais ça, c'est excellent quand tu vois des trucs comme ça. Je préfère, tu vois, c'est un peu dans la ligne Fanboss que t'as pas trop aimé d'ailleurs. Mais pour
c'est
moi,
c'est dans
ça,
la même lignée que Soyez sympa en bobiné. Hein.
Ouais, aussi.
Dans la même lignée.
Ouais, ou bien il y a un peu moins de. C'est un peu moins écrasé que dans Ready Player One. T'as l'air, on parlait de Spielberg. Mais il y a du fanboy dans Paul. Elle est pas comme ça, assénée à coup de marteau comme dans Ready Player One, tu vois.
Si t'as pas la ref, tu comprends le film quand même.
Ouais. Et puis à un moment, il y a même un truc, c'est un peu méta parce que ils vont à une espèce de convention. Je crois que c'est le Comic Con d'ailleurs, il me semble. Ils débarquent pas au Comic Con, non ?
Oh, bah, c'est ça le but, hein. Ils voulaient aller au San Diego Comic Con.
Donc ils sont dans leur espèce de van. C'est trop drôle parce que c'est une espèce de road movie comique. Et puis lui, le mec, mais il s'en fout, quoi. Il fume.
Il boit, il bouffe
des donuts. Il dit des conneries.
Il fait des allusions sexuelles tout le temps.
Le Big Bang, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, tu vois ? Il est là à troller à moindre truc, quoi. Il casse tout le monde, quoi. Mais il est excellent, quoi.
Ouais, il est un peu comme le petit gris dans American Dad.
Ouais,
c'est pareil.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect qui est fortement cartoon là-dedans.
Ah ouais, c'est.
Ouais, mais voilà, quoi.
C'est un cartoon en film, ouais.
Ouais, c'est une bonne comédie, j'ai trouvé.
Ouais, c'est divertissant.
Ouais. C'est pas non plus le super film, ouais, le super extraterrestre, super amical. Lui, il est plus qu'amical, hein. Il est même plus. Il est même très familier, des fois.
Ouais,
hein.
Super.
Donc c'est Paul, il s'appelle Paul, je sais pas pourquoi, mais bon, il est sympa, et puis à la fin, il pète pas, je sais pas quoi, bon.
Certainement, il se fait toucher les couilles par l'agent de la CIA ou je sais pas quoi.
Il dit quoi, je sais pas, il dit un câlin, je sais pas quoi, puis à un moment
Puis même pour redémarrer son vaisseau, il tape un grand coup dessus, tu vois, un vaisseau à l'IT, quand le truc il se ferme, il donne un grand coup, bam.
Il y a vraiment des trucs drôles, parce que moi, j'adhère pas trop à l'humour américain, mais là-dedans, je trouve que j'ai pété de rire, quoi, à plusieurs fois, quoi, tu vois. C'est vraiment cool comme film, quoi.
Ouais, il est bien.
Ouais.
Vous pouvez le regarder, c'est un bon moment.
C'est vraiment bon, quoi. Dans le genre comédie, hein, attention. Maintenant, si vous amuserez aussi à détecter les petits clins d'œil par-ci, par-là, qui sont faits à Star Wars, à Star Trek.
Un peu de tout, hein. Rencontre du troisième type aussi.
Aussi,
l'artifice, il fait le bruit de rencontre
du
troisième type.
Ouais, en plus, ouais. Donc voilà, quoi, la zone 51, ça parle beaucoup à beaucoup de monde.
Alors pour nos amis marseillais, rien à voir que le pastis. Hein.
Il y a du X-Files aussi, il me semble, d'ailleurs, dans le film.
Il y a de tout. Voilà, du Alien aussi, il dit que c'est lui qui a écrit les scénarios. Les scénarios d'Alien, tous les machins, c'est lui qui a écrit.
Ouais. Mais bon, ça fourmille tellement de détails, de trucs,
ouais, tu peux pas tout retenir.
De trucs croustillants que t'es bon. Mais c'est, je veux dire, ça passe mieux, ça passe bien dans, je veux dire, dans le l'intégration des références quoi. C'est ça le truc. Voilà quoi. On a terminé avec la section. On n'a pas terminé parce qu'on doit aussi passer du côté français un petit peu parce que nous les Français, on n'est pas bon en science-fiction, mais on a eu quand même.
En film, on est bon en quoi en français. C'est marrant, lui, à part Kaamelott, je vois pas ce qu'il va être de bon cette année.
Non, mais on a eu un cinéma français dit classique qui a été intéressant. Les films en noir et blanc, tous les trucs.
Le gendarme, les extraterrestres.
Bien sûr, mais par exemple. Mais moi, j'ai envie de parler de la soupe aux choux.
Ah, la soupe aux choux.
Parce que c'est une rencontre du troisième type, quand même, quelque part.
Avec le Glaude.
Ouais, donc sorti en 1981, signé Jean Giraud, avec Louis de Funès, dont c'était le dernier film d'ailleurs. Il était très malade, on le voit dans le film. Il y a aussi Jacques Villeray dans l'ordre du ET. Et puis Jean Carmet, qui est un peu le compagnon d'infortune de Funès.
Ouais, les deux vieux garçons, j'ai l'impression.
Ouais, donc c'est ça. Ils sont dans leur baraque, et puis ils picolent beaucoup d'ailleurs.
Ah bah, ils picolent et ils pètent.
Ouais, ils pètent beaucoup.
Parce que, c'est pas un détail, hein, c'est en pétant qu'ils attirent les extraterrestres. Alors, on pourrait croire que c'est un détail, et puis l'extraterrestre, il débarque, et pourquoi tu nous as appelés?
Pourquoi? Parce que il y a déjà un peu cet esprit bof des chroniques françaises. T'as pas l'impression que...
Bah, il faut dire, la série des gendarmes, c'était bof aussi. Hein.
Ouais, mais bon...
Mais à l'époque, t'allais au cinéma...
Le mec pète pour que l'extraterrestre, il débarque.
T'allais voir les de Funès, t'allais voir les loups, la cuisse et tout, t'allais juste pour aller rigoler un bon coup. Hein.
Bah ouais.
T'allais pas pour te creuser la tête. Si tu voulais te creuser la tête, tu regardais des films de la Nouvelle Vague.
Bah, non, mais ça, c'est horrible. On parlait de François Truffaut, d'ailleurs. C'est lui, la Nouvelle Vague, quelque part. Non, bah là, c'est vrai que ça manque de subtilité. C'est pas le meilleur film de Funès. Hein. C'est pas sa meilleure comédie. Hein. Bon, puis après, il y a l'histoire du vaisseau spatial, parce qu'à la fin, ils emmènent carrément tout le terrain est inspiré par le vaisseau spatial.
Voilà, parce qu'ils ont construit un Luna Park autour pour aller se foutre de la gueule des petits vieux.
Et puis voilà, ça fait très effet spéciaux à la française, quoi, tu vois, le truc.
T'as marqué, excuse-moi, t'as dit une bêtise, t'as dit effet spéciaux et français dans le même truc. Ça colle pas, Fabien, y'a rien qui colle pas.
C'est antinomique, tu veux dire. Ouais,
c'est dichotomique, hein, carrément.
Quoi qu'il y a eu des films français qui ont eu des bons effets spéciaux. Regarde, Alien Résurrection. Bon, ça a été fait aux États-Unis, tu me diras, mais bon. Mais c'est un studio français qui s'occupait des effets spéciaux de Alien Résurrection. C'était pas si dégueulasse que ça.
Ouais, mais ça avait le budget. La soupe aux choux.
Parce que c'est pas une production française. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais la soupe aux choux, voilà. Derrière genre un cotide, tu sais que c'est pas la peine de te prendre la tête. Hein. Ouais. On va le voir et tu vas t'éclater, c'est tout.
Attends, t'as des effets vraiment dégueulasses, style Catwoman. C'est un studio français qui l'a fait, mais ça a été produit par la Warner. Mais c'est vraiment dégueulasse au niveau visuel, hein. C'est pas beau, quoi. Donc la soupe aux choux, ouais, une bonne comédie qui a quand même pris pas mal de rides, hein.
Ouais, puis enfin, c'est ça date, hein, les années 80, vraiment début 80, on va dire fin 70-80. Ça a pris un coup de vieux, quoi.
Ouais, c'est sûr. Enfin, bref, c'est toujours au-dessus du niveau du film que je vais parler, et ça j'en parlerai très vite. C'est l'extraterrestre, avec le duo Les Inconnus. Bon, moi j'aime bien ce qu'ils font en général, mais là ils ont vraiment fait de la merde quand ils ont fait ce film, hein. Bernard Campan et Didier Bourdon, surtout, dans des costumes et kitsch, mais au plein, au possible, quoi. Et puis cette histoire d'extraterrestre qui s'égare sur la Terre, hein, pour un peu pomper sur E.T. l'extraterrestre, justement. Et là, mais on parle dans des gangs, mais fou, qui la beaufitude, elle a atteint un niveau stratosphérique, tu vois, le truc vraiment débile, quoi. Mais c'était juste pour l'anecdote, pour dire que on n'est pas doué, quoi, pour les films d'extraterrestres, quoi.
Non, autant les Rois Mages, c'était bien, mais c'était pas un truc d'extraterrestre, ouais. Mais alors là, l'extraterrestre, non, mais...
Bah, encore, t'as le Paris, le Paris et les Trois Frères qui passent encore, quoi.
Ouais, le Paris, à la rigueur, ouais. Les Trois Frères...
Pas le 2, hein, je parle pas du 2. Hein.
Quand tu regardes les Rois Mages, là, par contre, tu vois, t'as une dichotomie entre les mages, qui viennent des temps anciens, qui découvrent le machin, et là, l'extraterrestre, ils ont voulu faire pareil, mais à l'époque, mais c'était mal foutu. Hein.
Ah non, c'est mal foutu au niveau visuel, au niveau scénario, tout est catastrophique.
Scénario, j'avais pas trouvé. Mais sinon, tout est catastrophique.
Mais bon, c'est juste pour l'anecdote, pour avoir un petit peu de matériel français. Mais c'est vrai qu'on a dû creuser quand même pour retrouver quelque chose. Quoi.
Ah ouais, c'est les contes de la crypte, là, au niveau français. Hein. C'est compliqué. Hein.
Voilà, donc on va passer à la partie un peu série, quoi. Il y en a pas pris beaucoup de séries, parce que c'est vrai que les séries, c'est un peu plus difficile d'en parler, parce que, déjà, il faudra avoir vu tous les épisodes, et ça, c'est pas possible, déjà.
Voilà.
Donc, je te laisse commencer par Doctor Who.
Bah, je vais déjà commencer par, avant que ça m'échappe, The Twilight Zone, où il y a un épisode où il y a des extraterrestres qui font des expériences entre guillemets, hein, sur un humain. Ouais. Et en fait, c'est les extraterrestres, ils donnent le pouvoir à l'humain de voir l'avenir, en fait, ou d'être fort, ou un truc dans le genre. D'accord. Et juste pour voir ce que ça fait, et puis là, tu te rends compte que l'humain, il fait que des conneries, quoi, après.
Tu sais, encore une fois, un manque de maturité de l'espèce humaine, quoi.
Non, mais ouais, puis il lui donne le pouvoir de force, et il fait le show, il fait le kéké, quoi.
Il détruit, quoi.
Non, il fait le kéké, il se la pète. Il détruit rien, il conquiert pas le monde,
ouais.
Mais il se la pète. Et après, les autres extraterrestres, il dit, bah voilà, hein, c'est nul, fait, bah attends, nous, on va essayer, puis il lui donne le pouvoir de lire l'avenir et il fait juste les résultats du tiercé, quoi.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Donc, voilà, c'est un peu dommage.
Ouais, l'égocentrisme humain, quoi.
Ouais, l'égocentrisme humain, puis en fait, c'est pour se foutre de la gueule de l'humain, ouais, quoi.
C'est ça, quoi.
Et sinon, ouais, comme tu disais, Doctor Who, la plus vieille série de science-fiction.
D'ailleurs, voilà. L'histoire que tu me dis, ça me rappelle Bruce Tout-Puissant, je sais pas si tu l'avais vu avec Morgan Freeman et Jim Carrey.
Alors, ça, je l'ai vu, c'est pas extraterrestre.
Ouais. Mais il y avait le fait qu'il donnait justement le pouvoir.
Pouvoir divin
à Jim Carrey pour pouvoir changer les choses, quoi.
Et c'est, voilà, et à un moment, et la morale de ce film, parce que là, c'est pas vraiment le sujet.
Ouais.
C'est que voilà, quand t'as eu tes pouvoirs divins, t'as fait des trucs que pour ta gueule.
C'est sûr.
Donc tu vois, juge pas Dieu, tu vois.
Mmh.
Parce que tu peux rien faire.
Ouais.
Et après, il lui explique ce que c'est vraiment un miracle. Tu vois, il dit après, une femme qui élève son fils toute seule, ça c'est un miracle.
Mmh.
Quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui se relève pour marcher, ça c'est un miracle.
Mmh.
Séparer la soupe en deux, c'est un tour de magie.
Ouais, c'était pas mal.
Hein, la morale, elle était bien.
Bruce Tout-Puissant, c'était assez réussi.
Et après, il y a eu aussi un truc de science-fiction britannique qui est paru il y a pas longtemps, où ils reçoivent la sonde Voyager, et ils donnent tous les pouvoirs à un mec.
Un seul.
Sur Terre, ouais, et il y a qu'à lever son bras, et puis tout ça se réalise.
Ah bon?
Ouais. Et à un moment, il se fait renverser en vélo, fait va te faire enculer. Le mec, il se fait enculer, quoi. Par exemple.
Ça rappelle. Ça rappelle la scène dans. On est complètement hors sujet, mais on sait tout. Dans Hancock. Tu sais, quand il est en prison.
Ah ouais.
Qui
ta
dit.
Tête va aller dans ton cul.
Ouais, ouais, toi, tu vois. Toi, tu vois, la tête dans ton cul. Ah ouais. Puis on entend. Pff, tu vois, au débris de. Tu sais, de cartoon, tu vois, ça fait bizarre. Quoi. Puis après, t'as le mec qui parle. Le truc impossible, quoi, tu vois. On va peut-être revenir
On pourrait être dans le cul.
Bah on va faire un spécial Hancock parce que y a des... c'est l'extraterrestre qui vient sur Terre.
Ah, on devrait faire un spécial anti-héros, il y a quelque chose à raconter.
Ah ouais, alors là, ouais, c'est vrai que c'est un bon thème, ça.
Et sinon, Doctor Who 1963,
Doctor
Who, hein,
ouais,
première série.
1963, premier épisode, ouais.
Ouais. Alors là, ça va être très compliqué de parler des premières séries parce qu'elles ont quasiment toutes disparu. Il y a d'ailleurs la BBC qui est toujours au taquet pour dire si vous avez des épisodes, si vous avez à reconstituer en gros la première saison jusqu'à la saison qui ont toutes disparu, on vous offre un Dalek grandeur nature. Donc l'appel est lancé. Et ils n'arrivent pas à retrouver les épisodes, ils ont été détruits.
Ils n'ont plus du tout d'archives pour. Par exemple, jusque 1989, quoi, la première période.
89, après, c'est le film, enfin le téléfilm qui est sorti.
Ouais.
Mais sinon, les premiers Doctor Who en noir et blanc des années 60-70, ouais. Non, ils ont un gros problème d'archives.
C'est terminé, quoi.
Ouais. Il y a encore le passage de sa première régénération qui est encore bonne, mais sinon, il manque beaucoup d'épisodes.
D'accord. Il n'y a pas toutes les saisons qui sont disponibles.
Pas tous les épisodes, parce qu'ils ont beaucoup de pertes. Les gens n'enregistraient pas à l'époque.
Mais c'est que c'était quand même sorti en DVD, mais il n'y avait pas l'intégrale, c'est impossible à trouver.
Allez, saison 1, 2, 3, 4, 5, ça va être très compliqué à trouver.
Ouais, parce que là, je vois que, 1963-1989, première période, on va dire. Et deuxième période, 2005, jusqu'à aujourd'hui.
La première période, c'était plus des épisodes de 20-25 minutes qui étaient groupés et qui faisaient en gros un épisode pour une saison.
Mmh.
Ça racontait une histoire par saison.
Non, bah, à la base, pour revenir un petit peu sur la fiche technique, c'est que, bon, la série a été créée par Sidney Newman et Ronald Wilson, et William Hartnell, donc il y a trois créateurs rien que pour cette série. Donc, on a comptabilisé 851 épisodes, mais à mon avis, il y en a un petit peu plus que ça.
Ouais, puis la nouvelle génération, c'était Moffat, Stephen Moffat et Russell T. Davis. Et les épisodes avec Russell T. Davis avaient été coécrits avec David Tennant, donc l'acteur qui coécrivait ses propres épisodes.
Apparemment, en France, il était Doctor Who, il a été vraiment révélé dans le Club Dorothée en 89, quoi.
Alors ça, c'est pour les années 80-80, dans ces eaux-là, là où il y avait encore sa grande écharpe, où ça commençait à être en couleur.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y a 13 docteurs, donc
14.
Depuis le début. 14.
On est au 14e docteur. C'est une
14e
femme
déjà.
Alors qu'il peut avoir que 12 régénérations.
Ah ouais?
Bon, c'est ta gueule, c'est
donc
magique.
Donc t'as une contradiction alors déjà. Là.
C'est un ta gueule, c'est magique, sauce gallifréenne.
Donc ils peuvent pas continuer à faire des docteurs comme ça indéfiniment alors.
Bah si, ils peuvent.
Si, ils peuvent.
Bah,
par le pouvoir de la magie ancestrale.
Par le pouvoir du ta gueule, c'est docteur.
Par le pouvoir du ta gueule ancestral.
Ah non,
je détiens la force toute puissante.
Non, Matt Smith devait être le dernier docteur.
Ouais.
Non, ils ont trouvé une astuce pour en refaire une nouvelle série, quoi. Une nouvelle série de docteurs.
Bah, de toute façon, maintenant, je vois qu'il y a quand même deux femmes. Il y a eu Jodie Whittaker il y a pas très longtemps.
Encore vu. Les nouvelles saisons, je les ai pas encore vues. Je me suis resté à Cap Baldi.
S'il y en a 14, il y en a quand même eu 12 mecs. Bah, il y a Christopher Eccleston, par exemple, qu'on connaît qui a été qui joue dans Thor Dark World par exemple.
Ouais, ou qui a joué dans G.I. Joe.
Ah oui, c'est vrai, il joue là-dedans. Ouh, la référence dure la référence.
Après, il y a eu David Tennant qui a complètement fait exploser la série, ouais. Mais dans le bon sens. Hein. Après, il y a eu Matt Smith,
ouais.
Qui a repris un peu quand il pouvait. Mmh. Après, il y a donc Capaldi.
Capaldi, ouais.
Là, j'ai du mal à accrocher. Ça
Peter Capaldi, t'aimes pas trop
Non, c'est pas l'acteur. L'acteur joue bien, il fait comme il peut. Mais ça devient très spirituel et là, j'aime moins. C'est moins marrant en plus.
Ouais, ça a l'air un peu plus sérieux, un peu plus grave.
Ouais, c'est plus grave. Et... Mmh. Matt Smith avait bien réussi à continuer un peu plus loufoque. Mmh. Ça, j'avais bien aimé. Et Tennant tenait le rôle. Hein. David Tennant, parce qu'après, il y a eu les appels du cinéma. Notamment dans Harry Potter, et du coup c'est pour ça qu'il a arrêté les Doctor Who, hein, parce qu'il y avait l'appel du cinéma derrière. Hein.
L'appel du cinéma, ça a duré qu'un temps, parce qu'on le voit plus maintenant dans la ligne tenante.
Ah là on l'a vu dans quoi là, déjà
Ça fait longtemps qu'on l'a pas
Harry
vu.
Harry Potter, et après sinon, bah là, le dernier c'est pas cinéma, c'est Jessica Jones. Hein.
Oui, donc c'est les téléfilms, la série MCU quoi. Ouais,
série MCU.
Mais depuis on le voit plus hein, dans la ligne tenante.
Bah non, comme quoi, résister...
C'est comme là, Matt Smith, tu me parles de Matt Smith...
Ah tu le verras nulle part d'autre, hein. C'est un acteur de théâtre.
On l'a vu brièvement dans Terminator Genisys, mais c'est vraiment un caméo, mais tu te dis, ouais, c'est... Ouais, parce que tu connais Matt Smith sa tête, tu vas pas me dire, son rôle il est vraiment minimal quoi dans Genisys.
Non,
tu vois pas pourquoi il l'appelle quoi.
Même Karen Gillan, à mon avis, ouais. À part Jumanji et le MCU, on la verra pas autre part. Hein.
Bah, c'est vrai que Karen Gillan a un peu plus de chance de, je vais dire, de percer pas trop, mais elle a des rôles récurrents quoi. S'il y a un Jumanji qui va sortir par exemple,
elle va devoir le faire.
Ou bien Nebula qui va réapparaître dans les Gardiens de la Galaxie,
elle va devoir le faire.
Ouais, là elle aura du taf, mais par contre, j'ai pas l'impression qu'on l'appelle pour autre chose.
Après, si tu prends Billie Piper, c'est un cas à part, c'est une pop idol.
Ouais.
Mais Billie Piper, voilà, elle fait pas de film derrière. Le seul truc qu'elle a fait, c'est Journal d'une Call Girl. Qui est une bonne série, j'étais assez surpris en fait. Ça parle de la prostitution, mais c'est jamais graveleux. Donc c'était pas mal.
C'est vrai que les actrices qui accompagnent le docteur, en général, elles font pas de super carrière.
Bah, celle qui jouait Sarah Jane Smith a pas fait de carrière non plus. Ouais. À part dans une série, Les Aventures de Sarah Jane Smith, avec K9, le chien du docteur.
Ouais.
Un robot, hein, bien sûr.
Oui, oui.
Et puis voilà quoi. Ouais. Bah, Ecclestone, t'en entends plus parler non plus. Mmh. C'est tous des gens qui viennent du théâtre. Alors après, ils font du théâtre. Hein.
C'est vrai que c'est une série anglaise, donc déjà à la base.
C'est une série anglaise.
Ils ont peut-être moins de chance.
Elle a quand même un succès assez bon quand même outre-Atlantique.
Ouais.
Par contre, chez nous, ça reste assez confidentiel en France en fait.
Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de grosses productions Doctor Who.
Bah non, mais il y a eu un film en 90, je crois, dans les années 90.
Ouais.
Et c'était de la merde. Donc il a fait un film. Enfin, un téléfilm, pour être plus précis.
Le visuel était pas bon ou l'histoire était pas bonne.
Bah déjà, le visuel était pas bon, l'histoire était pas bonne, et on partait du principe que c'était la suite.
La suite directe,
Donc ceux qui connaissent pas, ils sont largués dans le film. Moi, j'ai connu Doctor Who à partir de 2005, quand c'est ressorti, et j'ai vu le film après. Donc je connaissais Eccleston, et c'est là où j'ai cherché les épisodes des années 80.
Mm.
Parce que je comprenais pas ce film.
Ouais, je veux dire.
Et il me semble que John Hurt aussi a fait un Doctor.
Ouais, John Hurt,
Doctor, lui.
Ouais, il a pas fait beaucoup d'épisodes, hein, apparemment, lui.
Deux épisodes.
Ouais, il me semble.
Mais ils étaient canon. Quand il y a eu Matt Smith...
Il n'y a pas un rassemblement des docteurs,
si, justement, il y a eu Matt Smith, Hurt et Tennant.
Ouais.
Ils faisaient les trois docteurs et l'épisode était top.
Ouais.
Et c'était avec les Zygon.
D'accord.
Qui étaient, eux, pas très top.
Les Zygon, c'est l'espèce de courgette, là.
Ouais, c'est les trucs un peu entre le poulpe et la
courgette. Alors, on va parler un petit peu du scénario, si tu veux bien, parce que Doctor Who, c'est quoi
Alors, scénario, alors, c'est compliqué, hein, parce que c'est quelqu'un qui...
Essaye de simplifier.
C'est un seigneur du temps.
C'est ça.
Donc, il maîtrise le temps, il maîtrise les trous noirs, c'est l'inventeur des trous noirs.
Ah ouais.
Pas lui, hein, le peuple.
D'accord.
Et il a fait une grosse connerie sur sa planète, il a déclenché une guerre entre les seigneurs du temps et les Daleks, donc deux races belliqueuses.
Ouais.
Et du coup, il fuit. C'est la fuite en avant d'un homme. Et il fuit et il vole une machine à remonter le temps et il se barre de Gallifrey et il fuit.
Et la machine à remonter le temps, c'est le TARDIS.
Le TARDIS.
Et le TARDIS a cette forme particulière d'une cabine de téléphone quoi.
Parce que son système de camouflage est coincé.
D'accord.
Voilà. Il a un système de camouflage parce que le TARDIS de Clara Oswald et de moi, donc c'est un personnage qui s'appelle moi.
Ouais.
Lui c'est un diner américain des années 60.
Mm.
Et le système de camouflage est bloqué. Et les Gallifréens maîtrisent aussi les dimensions.
Mm.
Donc c'est une cabine de police, comme qui ressemble à une cabine téléphonique.
C'est ça.
Et à l'intérieur, c'est un vaisseau spatial gigantesque.
Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent, le TARDIS, il est petit à l'extérieur et puis il est immense à l'intérieur. Quoi. C'est une espèce de pont de l'Enterprise. Mais
et quand
plus,
il rencontre le fils de Sarah Jane Smith, c'est ça que j'aime bien. Il fait, tiens, c'est marrant, il dit pas c'est plus grand à l'intérieur. Il fait, tiens, c'est marrant, c'est plus petit à l'extérieur. Et le docteur, il fait, ah ben voilà, toi, t'as compris.
Ouais, il y a toujours cette pointe d'humour, quoi, du docteur. Parce que, faut avouer que, moi j'ai pas vu tous les épisodes, mais je vais dire que j'ai regardé un petit peu.
Ah, moi, Ecclestone, Tennant Smith, j'ai tout vu. Capaldi,
ah, moi, j'ai vu Capaldi, j'ai vu Matt Smith et j'ai vu un autre, peut-être Tennant, je crois. Enfin, j'ai pas vu les vieux, hein, donc je vais pas critiquer. Mais il y a toujours ce côté un peu décalé, tu vois, dans le truc.
C'est que, toujours d'actualité.
Nouveau, mais bon, on va dire à l'aspect visuel, il peut y avoir de très bons effets spéciaux. Et puis à côté, tu vas avoir des trucs, mais complètement dégueulasses, quoi, tu vois.
Ah oui, oui, non, mais c'est encore le cas maintenant. Hein.
Ouais. C'est-à-dire qu'il... Mais est-ce que c'est pas fait exprès, ça?
Ah si, c'est complètement fait exprès. Ouais. Et quand ils voient les Cybermen, c'est fait pour rappeler ceux des années 70-80.
Ouais.
Donc le design évolue un peu. Quand tu prends les Daleks, le design n'évolue pas du tout.
Bah non, c'est toujours ces robots qui roulent.
La poubelle spatiale, quoi.
Les boîtes, ouais, la poubelle qui roule, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et c'est fait pour, ça fait partie de l'ADN du docteur.
Ouais, c'est
après, il y a un bestiaire colossal. Hein. Les Santariens, les reptiles, les... Ouais, je crois que j'ai passé d'une journée.
C'est incroyable au niveau des races extraterrestres dans cette série. Hein.
Et moi, celle qui me fait le plus flipper, c'est les anges pleureurs.
Ouais.
Dans la version avec David Tennant.
Ouais.
Un épisode d'ailleurs où le docteur n'apparaît pas. C'est le docteur, il apparaît mais que en vidéo. Et les gens, ils sont menacés par des statues.
Mmh.
Dès que t'arrêtes de les regarder, elles peuvent se déplacer à une vitesse incroyable et te tuer. Pour te renvoyer dans le temps.
Ça rappelle pas un peu un épisode du Liste 31 où il y avait où tu devais être figé, je sais pas quoi.
En fait, si, ça rappelle un épisode comme ça. Et en fait, là, c'est parce que c'est leur système de défense et d'attaque. Et quand ils te touchent, ils t'envoient dans le passé. Et les anges pleureurs peuvent vivre le durée de vie que t'aurais dû vivre toi. Donc
ouais.
S'ils tuent quelqu'un qui va rester 40 ans à vivre, ils vont revivre 40 ans de plus.
C'est assez complexe hein, comme univers. Il faut avouer que. S'il faut se taper les 800 épisodes pour tout comprendre.
À partir de la saison va dire de 2005, tu peux comprendre. Mais il y a quand même des points de repère à avoir.
Et quand tu dis les deux périodes, elles sont liées quand même, les deux périodes.
À tout, du premier au dernier docteur, tout.
C'est-à-dire que c'est pas un reboot en 2005.
C'est pas un reboot.
Ouais.
C'est une incarnation.
Ouais, c'est ça.
Et il vit sa vie depuis.
Depuis la destruction de sa planète, quoi.
Allez, la pseudo-destruction de sa planète.
Ah bon. t'as balancé un gros spoiler, là.
La pseudo-destruction.
Ah ouais. Parce que lui, il croit vraiment que son monde n'existe plus, quoi.
Bah, normalement, il est censé l'avoir détruit lui-même.
D'accord.
Mais après, bon, t'apprends des trucs. Mais là, je veux pas vous spoiler, parce que
s'il faudrait se pencher sur une série comme ça, il y a quand même une trentaine de saisons, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour, même si on n'a pas tout détaillé non plus, quoi. C'est vrai que ce design des extraterrestres, il y a un côté un peu kitsch, hein, quand même, souvent.
Bah, forcément, ce sera soit des extraterrestres humanoïdes qui ressemblent à un humain comme deux gouttes d'eau, comme ça, bon, pas y a un acteur.
Ouais.
Ou soit des marionnettes un peu plus difficiles à animer. Comme tu prends Alf, par exemple.
Ouais.
Bah là, c'est une marionnette. C'est un peu plus kitsch, forcément.
Mais par contre, il y a un truc, l'autre jour, j'ai vu un épisode avec Capaldi où il y a des extraterrestres qui ouvraient carrément leur tête pour sortir des armes de leur... Je sais pas si tu l'avais vu, cet épisode-là.
Non, Capaldi, celui-là, je l'ai pas vu.
Il y avait un côté un peu crade, quoi.
Des fois, t'as des côtés crades. Hein.
T'as
l'Absorbalov qui était crade. Ouais. Après, t'en as, c'est... Enfin, je sais pas, il y en a, il tue quand même des gens. Puis, il y en a, c'est... Il est... Enfin, les désosseurs, ils déchiquent les gens, ils les mettent en 2D.
Ouais.
Donc, il y a des moments, c'est un peu crade.
Ouais, c'est un peu cloque. Il y a
un
esprit cloque dans certains épisodes horrifiques. C'est pas seulement la science-fiction, ça aborde un petit peu le monde du fantastique, quoi, on va dire ça. Ouais, donc tu parlais de Alf, bon, on va enchaîner hein, sur notre sympathique extraterrestre. Bah, je voudrais commencer peut-être pour faire un petit clin d'œil à Roger Carrel qui nous a quitté il y a pas très longtemps, là, qui justement était la voix de Alf.
Et aussi d'Astérix, accessoirement.
Ouais.
Là, comme ça, vous replacez qui c'est. Bugs Bunny aussi.
Astérix, Bugs Bunny, c'est la voix de C-3PO aussi dans Star Wars. Ouais, voilà quoi, Roger Carrel, comme je disais, c'est trop PO, et puis il y a une voxographie, j'ai envie de dire, mais comme mon bras, quoi. On peut citer quand même le personnage d'Hercule Poirot, par exemple, ou bien c'est lui qui fait aussi Benny Hill, tu vois, si tu te souviens.
Ouais. Benny Hill.
Donc, l'un des plus grands doubleurs, l'un des plus connus, hein, celui qu'on appelle tout le temps quand il faut doubler des personnages de cartoon. Hein,
alors, on va l'appeler moins souvent maintenant.
Ouais, c'est sûr, mais bon. Donc, quand même une grosse perte dans le milieu, quoi, on va dire. Mais ici, on parle de Alf parce que c'est vrai que c'est lui, il double Alf, mais il y a une intonation qui est différente, donc des fois, on a un peu du mal à le reconnaître que c'est lui, quoi, tu vois.
Il parle un peu gros.
Ouais. Il y a une voix qui est déformée. Donc, Alf, c'est de son vrai nom, Gordon Shumway, parce que je savais pas qu'il y avait un vrai nom, lui.
Alf, ça veut dire Alien Life Form.
C'est ça.
Donc, forme de vie extraterrestre.
Bien sûr. Donc, il vient de la planète Melmac. Et il atterrit chez la famille des Tanner. Et Alf, c'est un peu une sitcom, hein, littéralement.
C'est une sitcom, c'est pas un peu une sitcom.
Ça rappelle un peu ces ces sitcoms style
Punky Brewster,
Arnold et Willy, tous les trucs qu'on voyait dans Croque Vacances, tu vois.
J'ai du mal, ce genre, on en a voyé beaucoup des sitcoms, j'arrive pas à les replacer.
Il y en a beaucoup quand même dans cette période-là. C'est un peu le style maintenant, c'est devenu un peu le.
C'était le AB production de l'époque.
Ouais, c'est ça. Mais je préférais ça que plutôt que les conneries d'AB de maintenant, quoi. Les trucs style les garçons et tout ce que tu veux.
Les vacances de l'amour.
Salut les musclés, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Des extraterrestres aussi dans les vacances de
l'amour. Ah ouais. Ah oh là là, on a évité un truc, on a évité le pire, là. Donc, 4 saisons, de 86 à 90, 102 épisodes, quand même. Et puis une série, pas déplaisante, hein. Et puis, il a un peu moins familier que Paul, mais il plaisante beaucoup quand même, Alphin.
Ouais,
et
puis il veut toujours manger le chat.
C'est vrai qu'il bouffe les chats, lui, hein. Ça, c'est un côté malsain du personnage, je trouve.
Ouais, c'est Rocco Siffredi, c'est un bouffeur de chat.
Oh, le troll. Ah, j'ai vu l'automatisme du mec. Je coupe pas celui-là. Hein. Allez. On est striké parce qu'on parle de chat, ce sera de ta faute. Hein. Ouais, la marionnette est très, très animée, très expressive. Il y a un côté vachement sympathique avec la famille. Bon, avec, la famille typique américaine, on va dire. Hein,
ouais, une comédie. Hein.
Ouais.
Genre pareil que le truc avec une vie de famille ou un truc comme ça.
Quoi. Ouais, c'est ça. Le truc avec Michael J. Fox, je sais plus.
Spin City.
Non, c'était une vieille série avec Michael J. Fox.
Ouais, mais non, je m'en souviens
pas. Je sais plus, mais peut-être qu'ils l'ont pas passé en France. Mais toujours est-il qu'on était dans cette veine de sitcom qui marchait bien la télévision, et puis hop, on va mettre un personnage extraterrestre, une marionnette, et puis ça fonctionne, c'est sympa, quoi. Puis des fois, il y avait la marionnette, et puis t'avais un bonhomme qui marchait de temps en temps pour voir, pour pas faire croire qu'ils étaient animés par en dessous, toi, tu vois ce que je veux dire.
C'était rare qu'on voyait ses pattes, mais ça pouvait arriver.
Ouais, ça pouvait s'arriver de temps en temps. Est-ce que t'as des bons souvenirs de Alf en général?
Moi, j'ai des bons souvenirs de Alf, moi, j'aimais bien. Bon, j'étais jeune, hein, donc forcément, je voyais ça au premier degré. Hein. C'est-à-dire l'extraterrestre sympa qui est cloîtré pour pas que les gens ils le croisent et puis qui emmerde toujours les voisins d'en face parce que l'autre, le mari, il croit que sa femme c'est une vieille folle parce qu'il y a un extraterrestre qui vit chez le voisin et puis qui veut toujours bouffer du chat, quoi. Ça, c'était bien.
Ouais.
C'était innocent surtout.
Ouais,
il voulait pas envahir le monde. Son vaisseau il était en panne, il cherchait juste un moyen d'habiter là le temps que ça serait peur.
Ouais. Je sais même pas s'il y a une fin cette série, s'il retourne vraiment dans son monde parce que j'ai pas suivi tous les épisodes déjà.
Non, moi non plus. Puis je m'en souviens pas.
Mais c'est vrai que d'un épisode à l'autre, j'avais quand même l'impression que ça variait un petit peu, voire pas du tout. Quoi, tu vois, c'est pas pour autant que c'était pas divertissant. Voilà. Quoi, mais je peux pas dire que ça m'est resté aussi c'était aussi marquant que d'autres séries, quoi, tu vois.
C'est moins marquant que Doctor Who.
Ouais.
Mais en même temps, Doctor Who, c'est d'actualité. Moi, toutes les séries que je t'ai parlé, c'est de 2005. C'est encore frais. Là, maintenant,
Parce que moi, j'ai pas revu un épisode de Alf, mais je me demande si ça n'aurait pas un coup de vieux, quoi.
Moi, je n'ai revu quelques-uns. Voilà. Là, pareil, tu te dis, c'est bon, c'est les années 85.
Ouais.
Et ça a mal vieilli, forcément. Mais ça reste toujours marrant à voir. Mais il faut avoir un œil années 90, quoi.
Ouais. Il faut quand même un petit peu tolérant, quoi.
Être tolérant. Ouais. Notamment quand il joue à Space Invader, tu te dis, c'est vieux.
Space Invader, c'est le premier jeu d'arcade de l'histoire, d'ailleurs, hein, il me semble. Ouais, Alf, à revoir quelques épisodes, rien que pour la nostalgie, le souvenir.
Voilà
ce qui conclut notre édition spéciale avec un beau panel. Si vous voulez revoir quelques films, je vais résumer un petit peu, hein, Rencontre du troisième type, E.T.
Abyss, grand film.
Abyss, Contact, donc les quatre incontournables.
Ouais, les quatre fantastiques. Ouais. Après, pourquoi pas Eden, si vous avez beaucoup de temps à perdre.
Non, après, il y a Cocoon, peut-être.
Cocoon, c'est pas... Ça reste correct, mais c'est pas à la hauteur d'un Abyss.
Bon, Starman, après, on va dire.
Ouais, Starman,
Paul, pour le côté...
Paul, pour le côté décalé.
Ouais, complètement. Puis Eden, si vous avez envie de voir une bonne série B, quoi. C'est son...
Pour ceux qui ont aimé les films genre Mosquito, Eden, vous allez voir. je dis ça, mais j'ai aimé Mosquito.
Mosquito, c'est mauvais. Hein.
Ah, moi, j'ai aimé.
En plus, il me semble que c'est tous des effets spéciaux numériques qui sont assez dégueulasses, quoi.
Ouais, mais le film aussi, il est dégueulasse. Moi, j'ai bien aimé.
C'est un petit peu le hashtag Gucciot, on va dire. Je l'ai vu l'autre jour, donc j'ai envie de le ressortir, tu vois.
Tu sais, il y a des films, on a tous, on va dire, le film Cousin attardé qu'on cache, mais qu'on adore aller.
Disons que c'est les plaisirs coupables.
Moi, c'est
plaisir coupable.
Plaisir coupable, c'est Mosquito.
moi, c'est Eden, mais bon, c'est tout, voilà quoi.
Mon plaisir coupable, Star Wars 8.
Star Wars 9. C'est même pas un plaisir coupable parce qu'on déteste ces films-là. Je veux dire, moi, mes plaisirs coupables, c'est, par exemple, c'est peut-être les 4 Fantastiques ou Spawn, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
Ouais, Spawn, un plaisir coupable aussi, ouais. C'est quand même un beau nanar. Constantine aussi, j'aime bien.
Il y a le problème de, je vais pas m'étaler sur Spawn, mais il y a un côté sympathique qui ressort quand même de ce film, quoi. D'avoir essayé de faire quelque chose, mais d'avoir merdé, quoi, quelque part.
Ouais, mais au moins, ils ont réussi. Dommage, ils n'ont pas réussi.
C'est tout, quoi. Mais je pense qu'on parlera aussi de ces films de super-héros ratés, comme tu disais.
Vu les sorties ciné, il faudra bien qu'on trouve un sujet. Donc,
ouais, un thème ou tout ça. Mais bon, il y aura Mandalorian aussi qui va venir sur le tapis. La saison 2, faut pas le rater.
Et pour donc, le Covid, on devrait faire un spécial virus. Avec le film avec Van Damme, là, virus alerte à New York. Là.
Figure-toi qu'il y a beaucoup de podcasts dans la période du la confinement. Là, ils ont fait beaucoup de podcasts sur les virus, sur les films de virus. J'ai pas trouvé ça très subtil parce que je trouve que si tu veux changer d'idée, c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire. Quoi,
je rigole pas, en mars, quand il a commencé à avoir le Covid et qu'on commençait à confiner, pour me changer les idées, j'ai regardé Pandémie sur Netflix. Et plus jamais. Hein. J'ai flippé pendant 3 semaines.
Il y avait ce film-là, mais surtout le film Contagion, tu sais, de Steven Soderbergh, qui était sorti il y a quelques années auparavant, où justement, il y avait une espèce de virus qui courait à travers les États-Unis, et c'était un virus style Covid qui asphyxiait les gens, tu vois. Et c'était le genre de film qui revenait tous les mois, quasiment, dans les podcasts. Je dis, les mecs, putain, faut faire autre chose, quoi.
Ouah, si vous parlez de virus, parlez du fléau, c'est mieux comme film.
Le fléau d'après Stephen King, tu veux dire. Hein. Ouais, parce que là, c'est un virus qui est un peu mystique, un peu plus diabolique, quoi, on va dire.
Et puis il y a mieux, il y a plein de trucs à raconter dedans.
Ah, ça d'ailleurs, le fléau, là, tu dis, là, c'est l'ancienne version, la série, là, la mini-série. Ouais. Et là, ils vont refaire une nouvelle version du fléau. Là, j'ai vu un trailer il n'y a pas très longtemps. Là, et donc, ils vont refaire ce fléau. Parce que Stephen King, faut dire, il fait toujours autant de patates hein, au box-office, que ce soit au niveau série, niveau cinéma. Hein, voilà,
non, moi, la dernière version du fléau que j'ai vue, c'est avec Deadpool. Le Juggernaut, c'est le fléau en français.
Surtout la blague avec le câble électrique. Ouais. Alors ça, il aurait fallu voir le jour où mon ami Teddy était à côté de moi, où il dit, ils vont pas oser. Eh ben, si, ils ont osé. C'est Deadpool, donc ils vont au bout des choses, hein, c'est tout. Hein. Je vais terminer sur cette bonne note de bonne humeur, et puis en vous souhaitant de prendre soin de vous, et puis à une prochaine fois, hein, sans problème. Je trouve plus mes mots.
Bah, c'est rien, on se revoit la prochaine fois.
Ouais, on se revoit pour un prochain podcast.
Avec plaisir.
Et sans, avec toujours autant de plaisir et de satisfaction pour tout le monde. Quoi. Voilà, comportez-vous bien.
Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu.
Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître.
Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.